I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. Au programme du jour, une mobilisation à Paris contre les méfaits et les nuisances du crack. N'oublions pas d'ailleurs tous ces riverains qui ne cessent de dénoncer l'insécurité depuis des mois, que dis-je, depuis des années, sans solution des autorités compétentes ou incompétentes. Vous entendrez leurs témoignages, leur ras-le-bol, le nord-est parisien qui est littéralement gangréné. Éteindre la lumière, utiliser son lave-linge en mode éco, installer un chauffage au bois ou peut-être aussi ne prendre qu'une douche par semaine au choix ou alors tous les quatre en même temps. C'est un effort immédiat qui nous est demandé, la sobriété énergétique, mais jusqu'où ? Et puis chaque année, vous le savez, c'est le même constat d'un baccalauréat au rabais. Mais chaque année, eh bien, cela malheureusement semble empirer avec des copies, vous le verrez, qui laissent sans voix. D'ailleurs, on vous soumettra un exemple édifiant. Et puis la politique avec les consultations d'Elisabeth Borne, consultée pour débaucher et former un nouveau gouvernement. Alors de quoi ce gouvernement pourrait-il être le nom ? Et puis on parlera du ministre Papendiaye qui exclut le RN du champ républicain et les électeurs aussi alors ? Des millions de Français, on posera la question. Voilà pour le programme, mais tout d'abord bien sûr, c'est le journal. Il vous est présenté par Mickaël Dorian. Bonjour à vous, cher Mickaël.
Bonjour Sonia, bonjour à tous. À la une de l'actualité, le procès du 13 novembre qui s'est achevé ce matin après 10 mois de débats, verdict mercredi. On rejoint tout de suite Mario Bazac en direct de la cour d'assises spéciale de Paris. Marie, ce matin, la cour a donné une dernière fois la parole aux accusés.
Oui, parmi les accusés, il y a notamment Salah Abdeslam qui s'est adressé directement à la cour en expliquant qu'il avait l'épée du parquet au-dessus du cou. « J'ai fait des erreurs », a-t-il dit. « C'est vrai, mais je ne suis pas un assassin, je ne suis pas un tueur. Si vous me condamnerez pour assassinat, vous commettrez une injustice. » Il a aussi tenu à présenter ses excuses aux victimes, comme il l'avait déjà fait en rappelant sa sincérité. Puis, dans un discours très préparé, très construit, il est revenu longuement sur ses conditions de détention, sur son isolement, pas dans le but de me plaindre, mais pour justifier l'évolution qui a été la mienne au cours du procès. Son arrivée le premier jour de cette audience au procès du 13 novembre, a dit-il, je me suis apaisée, pas parce que j'ai entendu votre souffrance, mais parce que j'ai retrouvé ce semblant de vie sociale. Avant lui, tous les accusés, sauf un, se sont exprimés. Ils ont rappelé leur innocence dans les attentats. Mohamed Abrini, qualifié de survivant du convoi de la mort par le parquet, a parlé de remords. Sofiane Ayaris, suspectée d'avoir voulu commettre un attentat à l'aéroport d'Amsterdam le soir du 13 novembre, a lui dit qu'il avait l'impression d'être condamné par avance, qu'il ne sortirait pas le même après 9 mois de procès. D'autres, parfois en pleurs, ont présenté leurs excuses aux parties civiles, ont dit avoir confiance en la justice. Puis les magistrats se sont donc retirés. Ils vont délibérer pendant plus de 2 jours dans un lieu tenu secret, une caserne sécurisée, avant de rendre leur verdict en fin de journée, mercredi.
Merci Marie Aubazac et les images d'Olivier Gangloff pour CNews. Le procès de Jean-Marc Reiser, assassin présumé de Sophie Le Tan, s'ouvre aujourd'hui à Strasbourg. Le cadavre de l'étudiante de 20 ans avait été découvert dans une forêt en 2018. Cette première après-midi ainsi que la journée de demain seront consacrées à l'étude de la personnalité de Jean-Marc Reiser avec les témoignages de proches et d'anciennes compagnes. Le sexagénaire en cours la perpétuité. Les prochains jours seront décisifs pour le gouvernement d'Elisabeth Borne. Une semaine après le second tour des législatives, plusieurs postes sont à pourvoir. Retour sur l'agenda de cette semaine avec Élodie Huchard.
C'est une semaine clé à l'Assemblée nationale avec un certain nombre de postes à distribuer. D'abord, mardi à 15h, l'élection du ou de la présidente de l'Assemblée nationale. Richard Ferrand voulait rempiler, mais il a été battu aux élections législatives. Celle qui fait figure de favorite, c'est Yaël Braun-Pivet, candidate de la majorité et jusqu'alors ministre des Outre-mer. Mardi, c'est aussi une journée importante parce qu'avant 18h, chaque groupe doit avoir déposé sa composition. On saura donc de manière très précise qui siège dans quel groupe. Et puis à noter la journée aussi de jeudi, les 8 commissions permanentes vont se réunir pour élire leur président ou présidente. Alors évidemment, toute l'attention va être tournée vers la prestigieuse commission des finances. Sa présidence doit revenir à l'opposition, oui, mais à quelle opposition? Certes, les députés Rassemblement National sont les plus nombreux, mais si la NUPES s'allie avec ces 4 groupes, eh bien c'est elle qui a le plus grand nombre de députés. Forcément, la bataille va être ardue et il va falloir suivre de très près toutes ces élections pour comprendre aussi comment l'Assemblée va pouvoir fonctionner pendant 5 ans.
Dans le reste de l'actualité, plusieurs barrages filtrants ont été mis en place proche des zones industrielles suite à la grève des transports routiers. Ils ont répondu à l'appel des syndicats qui réclament une revalorisation salariale. Vincent Fandège est à la zone industrielle de Moissy-Cramayel en Seine-et-Marne auprès des routiers.
Cette opération de filtrage et de tractage réunit depuis 5 heures ce matin ici sur cette zone industrielle des dizaines de routiers, notamment les principaux syndicats sont représentés. Ils demandent une amélioration des conditions de travail et également une augmentation des salaires. Je vous propose d'écouter les représentants des principaux syndicats ici.
On se bat aussi pour les salaires, on se bat aussi pour le minimum conventionnel. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, le patronat, ils ont du mal à négocier.
C'est une action aujourd'hui pour essayer de les réveiller. Maintenant, s'il en faut d'autres demain, on en fera d'autres demain. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus.
Les personnes présentes ici nous disent que c'est un avertissement. S'ils ne sont pas entendus aujourd'hui, eh bien, ils taperont plus fort à partir de l'automne prochain.
L'économie maintenant, on va parler immobilier avec Eric de Rydmaten. Une étude annonce une forte chute des transactions.
Votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre, partout en France.
Oui, avec l'immobilier, c'est sans doute la fin de la folie. Il y a une étude qui vient de sortir, étude semestrielle de Century 21, et qui révèle que le nombre de transactions devrait chuter de 20% cette année. 20% de transactions en moins par rapport à 2021. Et donc, on passerait sous la barre du million de transactions. On serait à autour de 950 000 précisément, dit cette étude. Alors, ce recul d'ailleurs est plutôt bien vu par la profession, parce que les prix ont explosé. Il faut voir que le prix moyen d'une maison a grimpé de 10% en 4 ans. Alors, je vous donne juste un exemple, il faut emprunter 60 000 euros de plus pour la même maison qu'il y a 4 ans. Et l'apport personnel, lui aussi, est passé de 35 000 à 52 000 euros. Donc, vous le voyez, ce sont en fait les banques qui ont restreint l'accès au crédit et surtout la hausse des prix. Tout cela fait qu'effectivement, le marché va se resserrer. On peut vraiment dire que la conséquence, c'est 1. Il y aura sans doute une baisse des prix du mètre carré cette année. Et 2. On peut vraiment dire que c'est la fin annoncée du boom de l'immobilier.
C'était votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
Midi News, vos débats et puis évidemment nos invités. Alors beaucoup de sujets à vous soumettre aujourd'hui. Taïma M. Fadel, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci. Dans cette émission, essayiste, conseillère dans la politique de la ville. À vos côtés, le journaliste Jean-Louis Burger. Bonjour à vous, Jean-Louis. Merci d'être là. Arthur de Vatrigan nous accompagne. Bienvenue et bonjour.
Bonjour.
Co-fondateur du magazine L'Incorrect et bien responsable politique sur ce plateau. Laurent Jacobelli, bonjour.
Bonjour, Seigneur.
Porte-parole du Rassemblement national et député RN de Moselle. On parlera tout à l'heure du Rassemblement national avec ce qu'a dit hier le ministre de l'Éducation, Papa Ndiaye, mais tout d'abord, vous savez qu'on fait souvent le suivi de certaines situations nourries par les témoignages que nous recevons à CNews, et c'est le cas depuis des mois et même des années, sur ce qui se passe dans le nord-est parisien avec la mobilisation contre le crack. Alors, c'est l'enfer. Ce sont des vies qui sont, et je n'exagère pas, confisquées, des habitudes de vie qui sont chamboulées, des riverains qui ont peur pour eux-mêmes et leur famille, et le cauchemar qui n'en finit pas. Pourquoi ? Parce que les autorités, pardonnez-moi l'expression, se refilent la patate chaude. Vous allez réagir, mais tout d'abord un résumé de ce qui s'est passé hier devant la mairie, parce que beaucoup ont protesté. Regardez ce sujet de Vincent Fandège.
Principale cible de cette manifestation, la maire de Paris. Les personnes rassemblées protestent, entre autres, contre le plan anti-crack de Anne Hidalgo, qui prévoit notamment l'ouverture de salles de shoot dans la capitale.
Les riverains, les commerçants n'en peuvent plus, sont excédés. Des mineurs sont en danger de manière quotidienne. Des gens ont des jambes en putréfaction dans la rue, j'en ai vu, c'est dégueulasse. J'ai vu des morts de mes propres yeux.
Quand il y a une salle de consommation, ça attire les dealers, ça attire les consommateurs, ça attire des bagarres, ça ne fait que du bazar.
Dans la foule, il y avait également des élus de l'opposition.
La majorité d'Anne Hidalgo tient absolument à aider les drogués à consommer de la drogue. Nous voulons les soigner et nous voulons que nos rues soient apaisées et que les riverains puissent vivre en sécurité et tranquillement.
Ça cause évidemment beaucoup de nuisances et beaucoup d'insécurité pour les riverains, pour les familles, pour les écoliers, pour les commerçants. Donc il y a une rupture d'égalité en fait entre les Parisiens, entre ceux qui habitent les quartiers qui sont préservés et ceux qui font face au quotidien à ces problématiques-là.
La manifestation a réuni 200 à 300 personnes devant l'hôtel de ville.
Bagarre, insécurité permanente, indignité aussi quand on entend les descriptions et les différentes autorités qui se renvoient la balle ou la patate chaude. Naïma M. Fadel, comment on peut arriver à ce point, à une telle dilution de responsabilité ?
Je crois que tout simplement, Madame Hidalgo ne veut pas prendre justement ses responsabilités, parce que c'est quelque chose qui dure depuis des années, qui ne fait que empirer. On n'arrête pas de déplacer le problème. On a eu la porte, effectivement, aujourd'hui, la porte Pantin, d'Aubervilliers, la Villette, la colline du Crac, etc. La solution d'ouvrir des salles de shoot n'est pas une solution. C'est une fausse bonne solution. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à partir du moment où il y a une ouverture de salles de shoot, vous avez tous les dealers qui viennent autour. Vous avez en plus un périmètre qui est garanti par les associations. Vous avez un périmètre dans lequel les policiers ne doivent absolument pas rentrer. Et là, les dealers, ils viennent aux portes des salles de shoot. Vous avez en plus toutes les nuisances. Vous avez en plus certains qui doivent se shooter à l'intérieur, mais en fait prennent leur matériel et sortent, donc à la vue de tout le monde. Donc on peut imaginer cet enfer qui est vécu par les riverains et les enfants qui circulent. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais vous avez des enfants qui vont à l'école et qui voient la déchéance devant eux. Donc la solution n'est pas là. La solution, effectivement, je pense, on en a parlé même. Excusez-moi.
Non, allez-y, mais la solution, je veux dire, ça fait...
Mais c'est soigner les gens, c'est les soigner.
Mais c'est à long terme, Naïma Fadel, vous avez raison.
Mais là, il faut bien commencer à un moment.
Très bien, mais qu'est-ce que vous faites pour ceux qui habitent là, qui ont leur vie confisquée, qui ont peur pour eux, pour leurs enfants? Et c'est vrai, j'entendais dans ce reportage, Laurent Jacobli, rupture d'égalité entre ceux qui habitent là et ailleurs, les Parisiens, c'est pas la même vie.
Oui, tous les Parisiens et d'ailleurs tous les citoyens ont le droit de vivre en paix, en sécurité. Or, il y a un spectacle désolant. Il y a des scènes de viol, des scènes de prostitution publique qui nous sont décrites, des scènes d'hygiène non respectées évidentes, des scènes de violence, de vol qui viennent se rajouter aux scènes de drogue. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien payer les doses et que pour ça, certains en sont réduits à vendre leur corps ou à détrousser les autres. Mais vous savez, c'est un concours de lâcheté et d'incompétence. La maire de Paris, honnêtement, sa décision de finalement encadrer l'usage de la drogue en fournissant des locaux pour le faire, c'est une forme de lâcheté par rapport au problème. Lâcheté aussi et incompétence de la part du ministre de l'Intérieur. Parce que, à ce que je sache, en tout cas, j'ai pas eu de Telex qui, comme on disait à l'époque, qui me disait le contraire, la consommation et la vente de la drogue sont toujours interdits en France. Et donc, c'est un travail de police qui doit être mené aussi beaucoup plus efficacement. La plupart des
police,
dealers...
c'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il faut arrêter les dealers, les renvoyer chez eux, parce que la plupart, il faut le dire, sont des Sénégalais.
Ceux qui se droguent et les craqueurs
qui sont en fait. Il faut soigner dans des centres de rétention sanitaire qu'il faut créer les gens qui se droguent et expulser les dealers étrangers. Tant qu'on ne fera pas tout cela, tant que la justice elle-même ne sera pas ferme sur les quelques-uns, les rares qui sont arrêtés, eh bien ces scènes-là vont continuer à hanter la journée et la nuit des Parisiens. Alors en se déplaçant, de temps en temps, on les prend d'un côté, on les emmène de l'autre, en disant, vous voyez, on a réglé le problème, mais le problème ressurgit à côté de manière bien plus grave. Donc plutôt que de légaliser de fait, plutôt que de fermer les yeux, plutôt que de s'habituer et de délocaliser, il faut agir sur la santé des consommateurs, sur l'arrestation des dealers et le renvoi chez eux des dealers étrangers. Déjà, on aura beaucoup plus de
problèmes. Les mineurs étrangers, excusez-moi de vous dire ça, mais vous savez qu'il y a des ONG qui veulent venir chercher ces mineurs et que les ONG françaises refusent que ces enfants-là retournent dans leur pays. Donc vous voyez, on
tourne
en rond parce qu'il y a un problème aussi au niveau de l'État français, c'est un problème franco-français où à un moment, il faut prendre des décisions. Et effectivement, c'est pluridisciplinaire.
On dit l'État veut, l'État peut. Là, l'État ne veut pas et clairement, donc rien n'est fait. Jean-Louis Bardot, est-ce que c'est votre analyse aussi ?
Déjà, c'est difficile de mettre les maires sont en première ligne. C'est évident. Je ne suis pas un fan de Madame Hidalgo, mais c'est difficile de lui mettre tout sur le dos.
C'est vrai que c'était difficile d'être fan, mais...
dans cette affaire, je ne dirais pas le contraire. Oui. Moi, je suis allé voir plusieurs fois, je me souviens, au Jardin des Halles, je suis allé essayer de regarder pour essayer de comprendre. L'origine de l'affaire, elle revient de très loin. On découvre par exemple que ces populations de drogués sont composées en majorité d'immigrés clandestins, c'est-à-dire des gens qui viennent chez nous, qui débarquent chez nous sans aucune solution, sans aucune possibilité de vivre, sans aucune possibilité de survivre même. Et donc, il faut vraiment que faut tous se prendre la main sur cette situation. Maintenant, reconnaître effectivement que certains quartiers sont devenus invivables à cause de ça, c'est vrai, c'est
mais
exact.
S'il vous plaît, au-delà du diagnostic, je vous assure, vous allez écouter, je voudrais qu'on écoute, elle s'appelle Stéphanie Benoît, Arthur Vatrigan, elle était dans la matinale de CNews, elle est porte-parole de l'association Villette Village, et ce n'est plus une question de conviction politique, ils n'en peuvent plus, quelle que soit leur conviction, quelle que soit leur étiquette, peu importe, elle a été récemment agressée, elle témoigne de son quotidien, écoutons-la.
Ils sont de plus en plus nombreux. On s'est rendu sur le terrain pour faire quelques constats et on se rend compte que l'ampleur du terrain a nettement grandi. Le nombre de tentes s'est augmenté. Les consommateurs, mais à la fois les consommateurs et les dealers sont en nette augmentation. J'ai croisé l'autre fois des dealers qui m'ont bousculé, à qui j'ai fait la remarque c'est pas très agréable. Il y en a un qui a ouvert son blouson avec une arme à l'intérieur. Et j'ai appelé la police et on m'a dit que c'était pas une urgence.
Alors, vous allez réagir parce que moi, je trouve, vous appelez la police. Bon, parfois, on le dit avec, évidemment, ils sont débordés, mais appeler la police dans un tel contexte avec quelqu'un qui est armé, dire que c'est pas une urgence, ça, on va y revenir. Tout d'abord, un rappel des faits, c'est CNews Info avec Audrey.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté les dirigeants du G7 réunis dans un sommet à faire le maximum pour mettre un terme à la guerre qui ravage son pays avant la fin de l'année. Le dirigeant ukrainien participera également au sommet de l'OTAN à Madrid à partir de demain. Premier cas confirmé de variole du singe chez un enfant en Île-de-France. L'Agence régionale de santé a précisé qu'il ne présente aucun signe de gravité. Pour le chef de l'Organisation mondiale de la santé, la variole du singe n'est pas une urgence sanitaire mondiale pour le moment. Et puis clap de fin pour les Solidays avec un nouveau record de fréquentation pour la 24e édition de ce festival. Plus de 247 000 personnes ont participé à l'événement. Les deux dernières éditions avaient été annulées à cause de la pandémie.
On revient à notre débat. Vous disiez tout à l'heure, Naïma Mfadel, je vais vous faire réagir à Arthur de Vatrigan, que les salles de shoot, finalement, au contraire, elles augmentent, elles grossissent le problème. Là, j'ai un article sous les yeux, c'est l'Express, bilan positif pour les salles de shoot françaises. Et toxicomanes en meilleure santé, un coût raisonnable et un impact neutre sur la tranquillité publique. 5 ans après leur création, les salles de consommation, appelé pudiquement ainsi, un moindre risque de Paris et Strasbourg démontre leur efficacité selon une étude publiée par... Ça vous fait tous sourire par l'Inserm.
Ça fait sourire, là. Peut-être qu'on dise ça aux riverains, les pauvres.
Oui, je pense que là, il y a un déni de réalité.
Non, mais en plus, il y a une escroquerie là-dedans, parce que les salles de shoot, il y a le plan anti-crack de Paris, fait par la ville de Paris, donc il y a une responsabilité d'Anne Hidalgo, c'est depuis 2019, en 3 ans, elle est passée de 9 millions à 25 millions d'euros de budget. C'est pas comme si déjà la ville de Paris regorgeait d'argent. La Chambre régionale des comptes a sorti un rapport sur ce programme-là. Et qu'est-ce que dit ce rapport? Il dit que l'arrêt de la consommation est toxicomane et l'élimination du trafic n'est pas prise en compte. Deuxième chose, que la préfecture de police de Paris, le parquet de Paris, sont signataires de l'objectif de ces programmes, mais à aucun moment il y a des mesures qui sont mises en place pour renforcer l'interpellation des revendeurs. Ensuite, pour la salle de shoot, c'est intéressant, c'est que le crack, ça se fume, ça ne s'injecte pas. Donc il y a l'utilité d'une salle de shoot pour un crack. Non, mais c'est globalement, ils le fument.
Oui, on
dit à quoi ça sert, sinon regrouper les consommateurs de crack ensemble. Et on sait que les regroupements font qu'on perpétue en fait la dépendance.
Donc on les agrège.
Et on agrège derrière, c'est fait des centres de regroupement. On sait que la dépendance du crack, c'est dès le premier inhalation, on est dépendant. Et derrière, il y a les dealers.
Et, tous les
et ensuite, on facilite le travail des dealers en faisant ça. C'est
évidemment qu'on facilite le travail des dealers.
Et
il y a une autre chose aussi à prendre en compte, c'est qui conseille la ville de Paris, qui conseille l'État, les associations qui font quoi, qui gèrent les centres de soins, qui sont subventionnés.
À qui profite le crime ?
Il y aurait un conflit d'intérêt là-dedans. Des associations qui ont fermé des salles.
Vous allez un peu loin.
Non, il a raison. Ils ont aucun intérêt, les ONG, par exemple.
Pour eux de conseiller de fermer ce qu'ils font.
Jean-Louis, par exemple, les ONG, j'ai travaillé avec Didier Lesky sur cette question des mineurs non accompagnés. Les ONG empêchent ces mineurs de retourner chez eux, même si c'est des magistrats des pays.
C'est une autre situation.
Non, c'est important parce que c'est eux, ces mineurs non accompagnés sont enrôlés aussi dans des trafics comme ça.
Vous dites que les associations qui conseillent la mairie de Paris sont parties prenantes et ont intérêt.
Comme pour les mineurs non accompagnés, parce que c'est eux qui les gèrent, donc c'est des rentrées d'argent pour eux. C'est leur existence aussi qui serait remise en cause s'ils n'avaient plus ces mineurs, par exemple.
Non, ce sont des accusations graves et violentes. Il est évident que des associations qui ne fonctionnent que grâce, effectivement, à des aides qu'elles apportent à certaines populations, si ces populations disparaissent, vrai, mais ça ne se réfléchit pas comme ça chez eux. Je suis désolé.
Le conseil d'ouverture de nouveaux centres à l'État et à la ville de Paris.
Non, moi, en tout cas, j'aime bien voir les choses concrètement. Je l'ai dit, je suis allé à l'époque où il y avait les Jardins des Halles, je suis allé plusieurs fois au Jardin des Halles, c'était déplacé, maintenant c'est autre chose. Mais j'ai essayé de parler avec des policiers, de parler avec des gens sur place. En fait, on est dans une société qui a besoin de changer complètement face à ce genre de situation. On n'a plus le moyen, les policiers n'ont plus le moyen, ils ne savent pas quoi faire.
On est tous d'accord, mais je vous assure, imaginez que vous habitez dans cette rue avec vos enfants, vos petits-enfants.
Bien entendu que c'est insupportable.
C'est facile.
Les policiers vous répondent que la seule solution, c'est de prendre ces gens et de les mettre dans des sortes de prisons. C'est la seule solution.
Ça, c'est vrai.
Pour rebondir, et je pense pas qu'on sous-entende la même chose en le disant, mais il faut radicalement changer notre vision des choses, c'est-à-dire que maintenant la fausse générosité qui amène à des situations comme celle-là, en accueillant des mineurs isolés sans même vérifier quel est leur parcours et quel est leur pédigré, en faisant une espèce de politique de l'autruche vis-à-vis des dealers et de l'immigration incontrôlée, parce que c'est à l'origine essentiellement de ce problème, à force d'angélisme, je ne vous en accuse pas, mais généralisé, on arrive à des situations comme ça. Alors maintenant il faut un peu de courage et dire non, on ne peut pas accueillir tout le monde et n'importe qui. Non, on ne peut pas tolérer que des riverains vivent une vie pénible, invivable, à cause de ce laxisme. Non, on ne peut pas tolérer que la justice ferme les yeux et sabote parfois le travail des policiers qui arrêtent des gars qui, le lendemain, continuent. Et oui, donc, faut changer de paradigme.
Mais qu'est-ce que vous faites, là, demain ?
Fermeté.
Vous êtes maire de Paris, vous êtes préfet, vous êtes autorité compétente. Qu'est-ce qu'on peut décider ? Sinon, le déplacement de ces populations.
Ah, mais des déplacements dans des centres, des centres médicaux qui est fermé pour qu'on puisse les soigner. Il faut les créer loin des villes. Mais on n'a pas d'autre solution. Regardez l'image qu'on donne. Regardez l'image qu'on donne de toutes ces tentes, de ces gens qui déambulent à Paris. Et effectivement.
Et jusqu'au Stade de France. Les gens qui consomment du
tabac. Moi, j'ai vu des gens. La semaine dernière, j'étais sur Paris. Enfin. Écoutez, des gens déambulaient nus, et ils étaient comme ça. C'est-à-dire que, je vais vous dire sincèrement les choses, Sonia. Moi, j'ai été faire campagne dans le 9e circo. J'ai fait pratiquement les 16 pays d'Afrique. J'ai pas vu ce que j'ai vu ici. Donc, à un moment, il faut que l'État, que les responsables politiques prennent leurs responsabilités, parce que ce n'est pas aux citoyens de vivre cette vie. Oui, vous avez vu les parcs?
Puis je vais vous dire,
on peut plus y aller.
La femme qu'on a écoutée, qui est... porte-parole de cette association, à un moment, dans la matinale de Romain Desart, elle s'excusait presque de devoir dire les choses parce qu'elle pointait du doigt, et on sent bien, je ne connais pas ses convictions et peu importe politique, mais on sent bien qu'elle allait contre presque certaines idées pour dénoncer la réalité. Bon. Mais la réalité, quand elle s'impose...
Mais elle s'impose à tous aujourd'hui. Je pense que ce qui a été vécu comme du fantasme, comme une exagération, aujourd'hui apparaît comme une évidence aux yeux de tous. Oui, l'insécurité existe. Oui, l'ensauvagement existe. Oui, le laxisme judiciaire existe. Et oui, les problèmes liés à l'immigration incontrôlée existent.
Jean-Louis me dit...
Je ne peux pas... J'ai dit une chose simple. J'ai dit que tous les acteurs de ces affaires que j'ai pu rencontrer... quand j'y suis allé, me disait une chose qui est très compliquée à mettre en œuvre, mais qui est pour eux la seule solution, c'est qu'en gros, il faut enfermer ces gens-là tant qu'on n'a pas de solution. C'est terrible à dire, mais c'est comme ça.
Enfermer pour soigner, pas enfermer dans le vide. Soulager les riverains, mais pour soigner.
Et on a passé notre temps à les déplacer.
Et leur donner la possibilité de continuer à consommer.
Et chaque fois, on détruit des quartiers, on détruit des zones,
C'est un peu antinomique avec l'idéologie d'Anne Hidalgo, quoi. L'internement, l'immigration, tout ça, c'est pas un truc qui est dans son logiciel. Donc c'est aussi ça qui est compliqué. La réalité et l'idéologie, parfois, on met un peu de temps pour ouvrir les yeux. Et là, c'est le cas.
C'est quand même incroyable. J'essaie de me souvenir depuis quand on parle de ce sujet, mais ça fait des années. entre la ville, la porte, mais c'est
incroyable. C'est pire, hein, c'est pire.
Et c'est de plus en plus grave, oui, c'est ce que dit Naïma. C'est de plus en plus grave et de plus en plus compliqué à faire évoluer et de plus en plus dangereux pour les riverains.
Et puis comment maintenant inverser? Parce que le problème, c'est sur la colline du Crac, il me semblait que c'était chez vous, comment il s'appelle, Licia, qui a été élue à Paris, il disait qu'au début, sur la colline du Crac, ils étaient une centaine. À la fin, ils ont fini 1500. Donc on voit bien que le problème reste entier et qu'au contraire, on alimente et on continue à alimenter. Et je regrette, mais ces ONG alimentent aussi l'arrivée aussi de ces personnes-là, puisque quand elles arrivent, on n'a pas de possibilité de les renvoyer chez elles. Parce que c'est ça aussi le problème. On ne peut pas accueillir dans des conditions, c'est inhumain ce qui se passe aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'on n'arrive pas à répondre, et l'État n'arrive pas à répondre malheureusement à cette situation.
Dans les consommateurs, il y a beaucoup de mineurs isolés, il y a beaucoup de migrants clandestins qui se retrouvent effectivement sans situation, qui cherchent à oublier par la drogue, qui est relativement accessible et facile de consommation, qui deviennent parfois eux-mêmes des dealers, et c'est une spirale infernale. À l'origine, il y a probablement des bons sentiments, mais à un moment, il faut regarder la réalité en face. Tout cela n'amène rien de bon.
Ce que je vous disais, vraiment, quand on creuse le sujet et qu'on essaie de voir quelles sont les responsabilités, de dénouer les fils. Il est impossible de le savoir tant tout le monde. La mairie vous dit c'est le préfet vous dit c'est la mairie, qui vous dit finalement c'est l'État, l'État qui vous dit c'est de la responsabilité de la mairie.
Non, alors je vais être honnête avec vous, Sonia. C'est à l'État d'organiser.
C'est à l'État.
C'est à l'État d'organiser. Moi, j'ai travaillé.
On est d'accord.
C'est à l'État d'organiser à un moment où tout le monde se met autour de la table et on renvoie la responsabilité de chacun.
Et on fait appliquer la loi. Effectivement, après, il y a une pollution, j'allais dire, de l'action de la municipalité par les salles de shoot qui sont favorisées. Mais grosso modo, l'État, là, ne joue pas son rôle. C'est très clair.
Il paraît que le préfet a dit dernièrement, il me semblait qu'il y a quelques mois, Sonia, on en a parlé chez vous, qu'elle ne voulait pas de la présence de l'État.
Anne Hidalgo. Enfin bon, il y a des choses qui s'imposent à elle dans la vie.
Non, mais on n'est pas à l'abri qu'elle ait dit ça.
On va changer de sujet, on va bientôt marquer une pause, mais pourquoi ce sujet est important? Sur la hausse des atteintes à la laïcité, puis on parlera du ministre de l'Éducation, les hausses des atteintes à la laïcité et à l'éducation. Vous allez voir, alors là, j'ai très envie de vous entendre, parce que le débat, il est assez vif. D'abord, c'est un sujet sensible, après le choc que nous avons connu dans notre pays, évidemment, de l'assassinat terroriste de Samuel Paty, mais certains disent que ces hausses, que ces atteintes à la laïcité sont le fait, de signalements qui sont de plus en plus importants. En fait, on ne met plus la poussière sous le tapis et donc on signale, et il y a beaucoup d'atteintes à la laïcité. Quand d'autres disent au contraire, non, c'est parce qu'il y a de plus en plus de coups de canif dans cette laïcité qu'il y a, ces hausses. Je vous propose, on marque une courte pause et on revient avec un sujet très descriptif sur la situation, puis on reviendra sur les propos du ministre. Ah, ça va vous faire réagir. Vous n'êtes pas dans la République, monsieur.
Eh bien, écoutez, je viens d'apprendre ça. Et je viens d'apprendre aussi que M. Papendia y était, lui, dans le cadre de la République. C'est encore plus étonnant.
Mais bon, ça vous inspire. À tout de suite.
Non, l'interview est intéressante.
C'est pour ça qu'on en parle. Je dis tout à nos téléspectateurs, nous étions en train de deviser sur le niveau des copies, alors au bac, mais pas seulement. D'ailleurs, on va vous soumettre une copie dans quelques instants, on va en parler. Mais tout d'abord, je vous le disais, les hausses des atteintes à la laïcité. Alors, une hausse des atteintes quand même une explosion. Et parmi ces signalements, le port de signes religieux ostentatoires. Est-ce qu'on en parle maintenant ou est-ce qu'on écoute le rappel de l'actualité avec Audrey?
La France a atteint sa cote d'alerte sur les finances publiques, c'est ce qu'estime le ministre de l'économie Bruno Le Maire, au moment où l'exécutif cherche un compromis avec l'opposition pour son projet de loi sur le pouvoir d'achat. Selon l'INSEE, la dette publique française a dépassé les 2,900 milliards d'euros à la fin du troisième trimestre. Le gouvernement propose de plafonner la hausse des loyers à 3,5% pendant un an. Le but, limiter l'impact de l'inflation sur les locataires. Une réunion de la ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Amélie de Montchalin, est par ailleurs prévue dans la semaine avec les associations de locataires qui demandaient, elles, un gel des loyers. Et puis dirigeons-nous vers une quatrième dose de vaccin pour tous. Pour l'instant, seuls les plus de 60 ans et les immunodéprimés y sont éligibles. Alors que l'épidémie repart à la hausse, la mesure n'est pas encore envisagée par le gouvernement, mais elle pourrait l'être à l'automne prochain.
Une hausse, voire même une explosion des atteintes à la laïcité dans l'éducation nationale. Et parmi ces signalements, le port de signes religieux ostentatoires à l'école est en constante progression. On va en parler. Regardez les faits avec Thomas Chama.
Malgré leur interdiction depuis la loi de 2004, Le port de signes religieux ostentatoires progresse dans les établissements scolaires. Selon le ministre de l'Éducation nationale, la part des tenues cultuelles dans le total des atteintes à la laïcité a augmenté, avec 139 cas recensés entre décembre 2021 et mars 2022. Un chiffre en hausse de 7% par rapport au trimestre précédent.
Ces vêtements-là sont portés pour des raisons identitaires, sous l'influence, comme je le disais, d'une idéologie, mais d'une idéologie qui est dictée à travers les réseaux sociaux. Il y a l'effet de groupe.
Au total, avec 627 signalements, le nombre d'atteintes à la laïcité dans les écoles est stable.
Ce nombre est à relativiser par rapport aux 10 ou 12 millions d'élèves, mais on tient compte uniquement des cas qui sont remontés. Or, il faut bien savoir que de nombreux cas ne sont pas remontés, les chiffres réels sont beaucoup plus élevés que cela. Et il faut bien comprendre aussi que les offensives qui sont menées sont des élèves qui se disent de confession musulmane, mais qui en fait adhèrent à une interprétation extrémiste de l'islam.
Le ministre de l'Éducation nationale promet une évaluation désormais mensuelle de ces phénomènes à partir de la rentrée.
Bon, une évaluation mensuelle, c'est bien. Moi, je me demande toujours qu'est-ce qui se passe. Ça me semble plus important, on va analyser les chiffres. Qu'est-ce qui se passe après une atteinte à la laïcité? Quelle est la sanction? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça le plus important, parce que les chiffres augmentent. Alors, on va deviser là-dessus, on va analyser à partir de votre exemple, on va se dire oui, non, mais qu'est-ce qui se passe après, surtout? Quel est le processus?
C'est la question, parce que là, c'est quand on passe d'une évaluation trimestrielle à une évaluation mensuelle. Regarde, depuis le rapport Aubin, qui date de 2004, je crois. On sait, donc les alertes, elles ne sont pas nouvelles. Donc là, il serait peut-être temps d'arrêter de réfléchir et de mesurer, mais peut-être d'envisager des contre-attaques, simplement. Et il y a peut-être aussi dans les termes utilisés, parce que là, on entend beaucoup hausse des atteintes à la laïcité, c'est des signes ostentatoires religieux, les tenues culturelles. C'est quoi la tenue culturelle? C'est un bouddhiste, il est en toge. C'est quoi le sujet? C'est la laïcité? C'est une idéologie? Parce que là, on a l'impression qu'on met tout dans un même panier. Donc c'est... Encore une fois, on ne dit pas les choses, on n'emploie pas les vrais mots. Quoi. Alors, si on reprend les chiffres...
Mais encore aujourd'hui, après tout ce qu'on a vécu, on n'emploie pas les vrais mots?
Bah non,
encore
là, quand on dit atteinte à la laïcité, c'est une atteinte à la laïcité, ou c'est une atteinte à une civilisation, c'est une atteinte à des mœurs, c'est une atteinte à des coutumes, c'est une atteinte à des lois. C'est quoi la laïcité? C'est quoi les... le sujet n'est pas si vaste que ça. Et quand on parle de tenues, de signes ostentatoires religieux, c'est quoi? On parle des bouddhistes, des protestants, des catholiques, des juifs? Le problème, c'est une croix?
En fait, on donne à ces habits...
Une fois, on ne dit pas les mots.
Ouais. On les qualifie de religieux alors qu'ils n'ont rien de religieux.
Exactement.
C'est tout simplement des habits traditionnels, hein, notamment des pays... L'Arabie Saoudite, c'est comme ça qu'ils s'habillent. Donc, c'est des habits traditionnels. Certains ont décrété que pour être en phase avec le dogme, il fallait s'habiller comme ça,
d'accord,
soi-disant.
Mais moi, je veux comprendre. Quelqu'un qui vient habiller de telle manière. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est exclu? Est-ce qu'il est suspendu? Est-ce qu'on appelle ses parents?
En réalité,
il ne se passe rien. Oui. On assiste depuis des années à une offensive, et disons les mots, d'un islam politique et radical. Hein, je ne parle pas de l'islam que vivent beaucoup de nos concitoyens très calmement et en paix. Je parle de celui qui est revendicatif et qui veut substituer ses valeurs à nos valeurs républicaines laïques françaises. Eh bien, il se montre pour défier, il se montre pour faire sa communication. Et malheureusement, ça marche. Ça marche parce qu'on laisse sans rien faire. Des directeurs d'école capitulent parce qu'ils se cachent, que sinon c'est à eux qu'on donnera tort. Des professeurs capitulent parce que sinon ils seront agressés verbalement ou physiquement, et on l'a vu encore récemment. Mais malheureusement, on le voit dans nos écoles, et on a beaucoup de témoignages, et je pense que ça vient de tous les bords. Il y a de plus en plus de petites filles qui arrivent voilées, de petits garçons qui arrivent même maintenant en tenue traditionnelle, que même parfois, je peux vous le dire, on laisse des accompagnatrices arriver en tenue, en voile, mais vraiment en voile presque intégrale. Donc tout cela n'est plus tolérable.
Alors, il faut maintenant intégrale.
Que la... En voile, oui... Pas un simple fichu. Donc il faut maintenant être très clair sur nos valeurs. Il faut ne plus rien accepter, ne plus transiger et avoir l'esprit tranquille.
Vous avez des exemples?
Mais en fait, on ne confond pas l'islam et l'islam radical. Je vais même vous dire, il y a même des affiches sur une école dans ma circonscription où on voit une femme vraiment bien voilée, avec tenant des enfants à la main, en mettant le bonheur dans l'école. Une affiche officielle. Donc si vous voulez, tout cela aujourd'hui, c'est une reculade totale sur nos valeurs, et il faut l'assumer. Mais oui, nous sommes en guerre contre l'islam radical. Celui-ci essaye dans les entreprises, dans la police, dans l'armée, dans l'éducation nationale, eh bien, d'entrer en force, d'imposer sa communication et ses valeurs. Eh bien, à nous d'être assez forts pour ne pas l'accepter.
Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'il y a une hausse des atteintes à la laïcité parce qu'on ne met plus la poussière sous le tapis, parce que le pas d'amalgame est terminé? Alors ça, c'était version Jean-Michel Blanquer, hein, Jean-Louis Bourgois, c'est ce qu'il disait. Si vous allez voir, moi je me souviens, il l'avait dit en interview, ça va exploser parce que aujourd'hui, chaque petit fait, chaque petit coup de canif est remonté, etc. Est-ce que c'est le cas?
Moi, je crois que sous la période Jean-Michel Blanquer, ces faits anti-laïcité ont été signalés de plus en plus efficacement, signalés. Quand on regarde les chiffres, c'est pas aussi c'est plus intriguant que ce que vous dites, c'est-à-dire que on voit que les signalements des chefs d'établissement pour atteinte à la laïcité a baissé. En revanche, ce qui grimpe, c'est le port ostentatoire de choses qui ou de vêtements ou de qui démontrent une religion. Pour moi, démarre d'une plateforme.
Qui demande peut-être la radicalité d'une religion.
Oui, voilà.
Mais la nuance est importante.
D'abord, c'est chez les jeunes qui aiment la provocation, il faut le reconnaître. Ce n'est pas obligatoirement chez les gens de 50 ans. C'est des jeunes qui sont à l'école. Et il y a aussi, il faut le dire aussi.
Ils sont mauvais s'ils sont à 50 ans encore à l'école. Hein, mais
les parents les laissent partir à l'école.
Il y a des collégiens, 20%.
Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a aussi une sorte de concours qui est en train de s'installer. Moi, je le vois dans les rues aussi, des différentes religions qui s'expriment de plus en plus ouvertement. Les juifs mettent une kippa. Les chrétiens mettent plus facilement une croix sur la poitrine.
Ne faites pas le coup de l'égalisation entre toutes les religions.
Non, je ne vous fais pas. C'est pas ce que je veux dire. Je veux dire plateforme. J'ai commencé à vous dire la plateforme de base. Je veux dire vient effectivement de l'islam et d'une certaine forme d'islamisme, mais qui relève pour moi chez les gosses beaucoup de la provocation, aussi. Et ensuite derrière, effectivement, dans différents endroits, on voit d'autres expressions de religion qui se multiplient. Voilà.
Bon, déjà, c'est pas d'aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on avait tendance à mettre la poussière sous le tapis. On avait tendance à être dans le déni, le pas de vague, etc. Donc ça a été important.
Je rappelle que dans notre pays, un professeur a été assassiné.
Oui, mais voilà.
Donc moi, je vous dis que normalement, tout aurait dû changer. On aurait dû passer d'un.
Sauf qu'on n'a rien fait. On a rien fait en vérité, Sonia, parce que est-ce qu'on s'est attaqué vraiment? Moi, je parlerais plus du vivre ensemble, en fait, du commun. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est le commun. On n'a plus de ce commun. C'est-à-dire qu'à partir du moment où des enfants, parce qu'il y a aussi dans les écoles, hein, les petits, les primaires, les collèges, commencent à revendiquer une identité religieuse en faisant d'un habit un étendard religieux, c'est grave. Et d'autant plus où elle est la place des parents. Parce que c'est des enfants qui partent le matin.
Mais moi, j'explique ça
aujourd'hui, depuis 20 ans, et sans y prendre garde, en fait, ce n'est pas le problème de l'islam, c'est le problème du salafisme. Aujourd'hui, ça s'est salafisé dans les quartiers. Aujourd'hui, il y a une norme qui s'est mise en place du halal, de ce qui est licite, et illicite. Aujourd'hui, on a ce grave problème où l'habit devient aussi.
Alors aujourd'hui, vous avez raison, mais c'est écrit
dans l'islam, il faut s'habiller comme
40
ça.
Ans.
Donc on l'a. Oui, mais
c'est parti du livre de Georges. Moi, je veux comprendre. Aujourd'hui, ça se passe
20 ans,
à l'école.
Vraiment, cette salafisation, elle est vraiment.
Aujourd'hui, à l'école, il y a cette atteinte à la laïcité. Comment on réagit? Est-ce que vous avez le soutien du rectorat? Est-ce qu'il y a le soutien du ministre? Parce qu'on va en parler, Papa
Ndiaye. Autres professeurs.
Et des autres.
Parce que je vous donne on n'en parle pas souvent, mais là, c'est la Fondation Jean Jaurès. On ne peut pas les accuser, ils sont extrêmement droits, on est d'accord. Qui ont fait une étude sur les enseignants, la laïcité et la place des religions à l'école. On apprend que 56% des enseignants de moins de 30 ans se déclarent favorables au port de signes religieux ostensibles. Voilà. On découvre notamment les voiles sorties scolaires. On découvre que 59% des professeurs de moins de 30 ans sont favorables au burkini. Encore plus inquiétant, 15% de ces jeunes enseignants pensent que le refus de suivre le cours de sciences naturelles ou la remise en cause dans l'enseignement pour raisons religieuses est valable. Donc, il y a aussi une gangrène à l'intérieur. Et là, on parle de jeunes professeurs.
D'ailleurs, Samuel Paty n'a pas été soutenu par ses pairs.
Il n'a pas été soutenu.
par le syndicat. On pourrait parler de la FCPE. Hein. D'ailleurs, ce n'est pas la FCPE qui avait fait une affiche avec une fille voilée, il me semble, syndicat des parents d'élèves.
Darwin, c'est devenu le tabou absolu. Hein,
oui, David. Comme la Shoah, d'ailleurs, malheureusement, dans certains cours. Et d'ailleurs, il faut parler effectivement de la complicité aussi de certains courants politiques. Disons-le, il y a aujourd'hui à l'Assemblée nationale des députés qui ont été élus sous l'étiquette La France insoumise et qui assument très bien le port du voile à l'école.
Je voulais en recevoir un face à vous, mais malheureusement.
Il y a des maires et des
élus. Venir débattre.
Il y a des maires et des élus locaux qui s'arrangent très bien avec ce port du voile parce qu'ils y voient un électorat potentiel. Donc il faut dire les choses.
Attends, il y a l'école, il y a pour les plus petits, mais Sciences Po, je voudrais vous lire parce que c'est mon. L'Express, encore une fois. Cet article, je vous conseille, d'ailleurs, c'est écrit, c'est devenu le tabou ultime quand Sciences Po censure Darwin à l'IEP de Paris. Deux séminaires ancrés dans la théorie de l'évolution ont été purement et simplement annulés, sans plus d'explications. Donc quand on dit le pas de vague est fini...
Sciences Po, il y avait eu une journée du hijab, hein, quand même.
Le hijab day, il y a un des profs à Sciences Po.
On n'en jetait plus.
Il y a une solution. Sonia, vous nous parlez de solution.
Je n'y suis pas entré, mais vous savez ce qu'il y a dans la grande photo qu'il y a dans le bureau de Pape Ndiaye, le nouveau ministre de l'Éducation. Il y a une grande photo de Samuel Paty.
On n'a pas encore. Je vais vous dire, Jean-Louis Burgard. Alors là, je ne remets pas en cause. J'espère que dans le cœur de tous les Français et du ministre de l'Éducation.
Non, on ne parle pas de Samuel Paty. On parle
de la hiérarchie.
Oui, la hiérarchie.
Ah ben non, mais on parle d'une situation. On l'a vu pour Papendieck.
L'enquête de Samuel Paty a montré que la hiérarchie coupable d'autres professeurs, des parents d'élèves, du proviseur, de toute la hiérarchie.
57% des jeunes musulmans placent la charia avant les lois de la République. C'est un signe grave.
On n'est pas en train de dire ça, Samuel. On dit que Samuel Paty, c'est toute l'histoire quand même de renoncement et de lâcheté de toute une partie de l'éducation nationale. Moi, je ne vise pas le ministre actuel. Ne pas les interroger, voilà.
Y a peut-être une solution.
Ah oui.
Parce que, non.
Ça, c'est intéressant. Parlez-nous des solutions.
Non, parce que rappelez-vous qu'il y a quelque temps, on a eu une autre polémique autour des jeunes filles qui sont venues avec, alors je ne sais plus comment on dit, croc-top.
Ah bah oui.
Et des petites mini-jupettes, et vous aviez plein de féministes, plein de personnes qui sont des influenceuses, qui ont pris la parole en disant « mais elles ont le droit de s'habiller comme elles veulent, etc. » Vous voyez, moi je trouve que quand on va à l'école, on s'habille décemment. Bon. Et là, vous avez d'autres jeunes filles qui vous disent « mais moi aussi, je veux m'habiller comme je veux. » Donc c'est « je fais comme je veux ».
Oui, non, mais
donc à un moment, il faut peut-être l'uniforme.
Est-ce que tout se vaut ?
L'uniforme.
Alors, ça,
l'uniforme. Parce que moi, je pense qu'il faut ça, l'uniforme.
Ça va plaire à Jean-Louis Burgas, ça va lui rappeler son enfant.
L'école ne doit pas être le lieu des revendications communautaires, mais le lieu de l'assimilation républicaine.
Non, mais je suis d'accord.
Attention à ce genre de propos aujourd'hui. Vous avez mis le croc-top, on va vous tomber dessus.
J'ai le droit
il
de
a
dire
peur, Jean-Louis.
Si tout ne se vaut pas, comme vous le dites très justement, il y a quand même un terreau où ça prospère. C'est un terreau où on explique que justement tout se vaut parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de civilisation, il n'y a pas de culture, il n'y a pas tout ça. Donc évidemment, quelqu'un en croc-top, la signification n'est pas la même que quelqu'un qui prône des valeurs islamistes et qui veut découper ou menacer un prof, évidemment. Mais il y a un terreau favorable à ça, c'est que justement tout se vaut et qu'il n'y a plus de hiérarchie dans rien et plus de culture. Et encore une fois, ce n'est pas un problème de religion. C'est là où on se plante.
Et c'est pour ça qu'il ne faut pas le mettre. C'est pour ça qu'il ne faut pas le mettre.
Quand dans les sondages, vous dites que 50% des jeunes disent que la charia ou Dieu est au-dessus de la République. Mais heureusement, quand en croyant, ils pensent que Dieu est au-dessus de Macron. La question, c'est est-ce que sa religion ou ce qu'il croit être sa religion est compatible avec
cette civilisation. L'erreur, c'est
voilà quelque chose enfin de bien dit.
Il aura fallu attendre 1h43 quand même.
Ce sondage qu'on met à toutes les sauces sur les
57.
Tantôt 57. Sur des jeunes qui mettent Dieu. Quand on est une religion, on met Dieu au-dessus
de la République, ils mettent la charia avant les lois de la République, et la charia étant aussi un système
de loi. Mais Laurent Jacobi, sur cette question, qui vous mettez d'abord? Quand vous la posez aussi à d'autres religions, aux représentants d'autres religions, c'est une vraie question qui les perturbe
Mais c'est pour ça qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter d'avoir une lecture de ces faits en les renvoyant à une religion. Je m'explique.
Soyons
plutôt une idéologie.
Oui, mais on est d'accord.
Radicale. Voilà. Comme ça, on dissocie les musulmans de ces radicaux.
Mais bien sûr, mais le pas d'amalgame, il nous a tué. Maintenant, agissons.
Exactement.
Alors.
L'uniforme, Sonia.
Oh là là, dis donc, l'école, l'uniforme, mais avec Papa Ndiaye, je ne sais pas s'il est fan de l'uniforme. On va en parler dans quelques instants, mais d'abord le rappel des titres avec Audrey.
Le G7 prépare de nouvelles sanctions contre la Russie. Les pays membres veulent développer un mécanisme pour plafonner au niveau mondial le prix du pétrole russe. C'est ce qu'a indiqué un responsable de la Maison-Blanche ce matin. Et puis première divergence dans la majorité. Hier, François Bayrou s'est opposé à un référendum sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Pourtant, la proposition de loi est défendue par Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée. Le président du Modem s'interroge sur son utilité, d'autant plus que selon lui, aucun parti ne remet en cause la loi Veil. Et puis réservation obligatoire pour se baigner dans certaines calanques de Marseille cet été. L'accès aux plages de Sugiton et des Pierres sera limité à 400 personnes par jour. La réservation en ligne deviendra obligatoire à partir du 10 juillet et jusqu'au 21 août. L'objectif, protéger les sites de la surfréquentation touristique.
Retour au débat. Papa Ndiaye a dans son bureau de l'éducation nationale une photo de Samuel Paty, nous dit Jean-Luc Burgoa. Fort heureusement, Samuel Paty, évidemment, est gravé dans nos mémoires. Mais moi, la question, c'est aussi, c'est surtout ses convictions, évidemment, ce qu'il a écrit et ce qu'il dit, notamment de ses convictions, de sa boussole. Papa Ndiaye, c'était hier dans Le Parisien. Il exclut le RN de toute possibilité de compromis. Bon, très bien, il exclut d'un accord de gouvernement, dont acte, mais... Voilà, la question, c'est est-ce qu'il exclut aussi tous les Français, c'est ça le plus important, qui votent pour le Rassemblement national? Et là, ce sont des millions de Français. Comment vous réagissez à ça quand il dit le RN n'est pas dans la République?
Il dit le Front national.
Mais alors, interdisons-le. Qu'est-ce qu'on attend pour l'interdire? Non, mais qu'est-ce qu'on attend? Si ce n'est pas dans la République, si c'est en dehors de la République, il faut l'interdire.
Je crois que ça ne fait doute dans la tête de personne que le Rassemblement national est un parti républicain. La preuve, nous sommes arrivés d'ailleurs en force comme premier parti d'opposition au cœur même de la République, qu'est l'Assemblée nationale. Nous y sommes arrivés par les élections. Aucune de nos mesures n'est contre la République. Je pense que M. Papa Ndiaye vit dans un fantasme, mais il aime bien porter les fantasmes, notamment des États-Unis. M. Papa Ndiaye juge beaucoup les gens. Il les clive beaucoup. Il les juge d'abord sur la couleur de peau, ce qui est très grave, je crois, pour un ministre de l'Éducation. Il a lui-même participer à des réunions interdites aux Blancs, c'est l'importation du wokisme depuis les États-Unis. Ce monsieur-là, c'est vrai, nous partageons peu de valeurs avec lui, mais c'est probablement parce que nous sommes républicains.
Attends, lui, il dit qu'il a été critiqué, non pas seulement sur ses écrits et ses convictions, mais parce qu'il était noir. Moi, je pose la question. Dans ce cas-là, on ne peut plus rien dire.
C'est un joker qu'il utilise. Mais alors, c'est une vraie
question. J'aimerais bien, oui, mais vous entendez.
C'est un peu facile. Parce que quand il dit, lui, qu'il y a une violence systémique de la police, on peut condamner ce propos, et c'est pas parce qu'il est noir, c'est parce que ce qu'il dit est ridicule et qu'il compare la situation des États-Unis à l'époque de George Floyd avec ce qui se passe en France. Il est l'émanation du wokisme américain.
C'est compliqué, si toute critique d'une personne noire relève du racisme, alors il n'y a pas de débat.
On peut rien dire.
C'est le wokisme. C'est pour ça que c'est toujours pratique, parce que pour le wokisme, sachant que les wokistes eux-mêmes disent que le wokisme n'existe pas, mais finalement ça existe.
On rentrait pas dedans.
La base, c'est le racialisme. Et le drame de Papa Ndiaye, c'est que justement, il légitime la racialisation des rapports sociaux. Il racialise ça et ensuite il dit oui, mais vous dites ça parce que je suis noir.
Alors il rejette tout ça. Il dit qu'il a des écrits beaucoup plus nuancés.
Il a dit lui-même qu'il avait pris conscience qu'il était noir en allant aux États-Unis. Ouais. Donc ça veut bien dire que quand il était en France, il n'y avait pas ce problème de rapport.
Il n'en a pas souffert. Et probablement,
les enfants non plus à l'école alsacienne, apparemment.
Moi, ça me gêne toujours de parler de la famille des enfants, mais c'est lui qui en a parlé, la question lui a été posée. Je veux quand même que ces enfants ne sont pas dans le public. Voilà. Ils sont dans le privé. Alors, c'est privé sous contrat. Je ne sais pas si vous connaissez l'école alsacienne, mais c'est l'établissement privé, élitiste. Voilà.
On ne rentre pas comme ça.
On ne rentre pas comme ça du tout.
Pas du tout, non.
À l'école alsacienne et financièrement. Et il laisse entendre un peu peut-être que l'un de ses enfants a eu un problème peut-être de scolarité ou qu'il y a un moment difficile. Et il dit qu'il veut que ses enfants aient une scolarité sereine. Bon, c'est ce qu'on peut lui souhaiter.
C'est vrai que c'est toujours difficile d'entrer dans ces problèmes personnels. Mais je ne sais pas si c'est... Moi, un personnage public, aussi public qu'il est en train de devenir... Effectivement, on a le droit de protéger ses enfants et de les installer d'une façon différente.
Mais on ne donne pas de leçons dans ce cas-là l'école et tout.
Mais voilà. Bon,
enfin, les ministres de l'éducation, la symbolique est forte.
La symbolique est forte, je suis d'accord avec vous. Simplement, on a dit beaucoup de choses sur Papa Ndiaye avant qu'il soit nommé à l'éducation avant qu'il entre vraiment dans l'action politique. Je pense qu'aujourd'hui, moi j'étais très intéressé par ses premières déclarations, ses premières interviews. Il a fait ça donc, ce week-end dans un journal parisien. Je pense que c'est ça qu'il faut regarder. C'est ça.
Moi, j'ai regardé en détail. Quand il dit, par exemple, l'épouvantail du... Moi, j'avais l'impression, je vous assure, de lire parfois une interview sur le FN des années 80.
Mais après, effectivement, quand je vois dans cette interview, déjà, qu'il ne parle pas de Rassemblement national, qu'il parle de Front national, je trouve ça un peu curieux. Je trouve qu'il est encore un peu sur ses vieux réflexes, sur ses vieilles positions. Pour le reste, qu'il exclut de toute entente, mais il n'est pas le seul à l'avoir
fait.
Ça,
le
président de la République a fait la même chose. Qui disent on ne discute pas, on ne peut pas parler ou travailler avec telle catégorie de la population. C'est étonnant.
Vous imaginez telle catégorie de la population,
désolé, on est en République. Ça va loin. Et moi, j'ai du mal à recevoir des leçons de républicanisme de quelqu'un qui exclut le premier parti d'opposition du champ républicain de par son seul fait, de par son seul désir.
Vous savez
je trouve ça très gênant.
Répondez sur la préférence nationale, parce qu'il en fait...
Priorité nationale.
Pardonnez, sur la... Non, il a dit préférence.
Lui a dit préférence, mais nous l'appelons priorité.
Je ne me suis pas trompée, oui, mais je reprends, c'est moi, lui, pour vous faire réagir. Il dit que c'est un point de rupture, que c'est pour ça que vous êtes en dehors de la République.
Alors, lui-même a ses préférences et ses priorités. Alors, elles ne sont pas liées à la nationalité, elles sont apparemment plus liées à une couleur de peau, ce qui n'est pas notre cas. Nous différencions bien la couleur de la nationalité. Mais vous savez, dans la plupart des pays, il y a des préférences ou des priorités nationales. Il y en a même chez nous, d'ailleurs. Pour ouvrir un tabac, il faut être français. Pour voter, il faut être français. Dans certains métiers de la fonction publique, il faut être français. Donc il n'y a rien de choquant, c'est inhérent à notre République. Simplement, il est à court d'arguments parce que c'est quelqu'un qui vit dans l'affrontement pour lequel il y a les bourreaux et les victimes, pour lequel il y a les oppresseurs et les oppressés. Et donc il a besoin toujours d'être dans cette situation-là. Et donc il place le Rassemblement national, qu'il appelle Front national à dessein, en dehors du champ républicain parce qu'il a besoin de ce clivage et qu'il a du mal à aller sur le fond. Parce qu'il va avoir du mal à nous dire qu'il n'y a pas de problème d'immigration. Il va avoir du mal à nous dire qu'il n'y a pas de problème d'insécurité. Et il va avoir du mal à nous dire qu'aujourd'hui, les Français sont parfois moins bien traités chez eux que ceux qui viennent d'arriver.
Ça promet ce quinquennat. Hein.
Ce qui est très, il y a quand même, là, on voit la communication derrière, mais derrière ça, il y a quand même quelque chose qui est assez effrayant. Parce que gouverner, c'est quoi? Gouverner, c'est faire des compromis. Si vous ne voulez pas faire de compromis, vous faites quoi? Une dictature? Au mieux. Là, si vous ne voulez pas composer avec des gens, vous faites une dictature ou un gouvernement autoritaire.
Vous avez quand même le choix de faire entrer qui vous voulez dans le gouvernement.
Ah oui, sauf que là, c'est 13 millions des votants.
Oui, je suis d'accord. Moi c'est le problème de représentativité.
Et dites pas de compromis.
Et si on retourne la question, est-ce que si on demande au Rassemblement national s'ils accepteraient de travailler avec M. Ndiaye, qu'est-ce qu'ils répondent?
Non, mais la réponse est bien sûr clairement non. Mais nous n'avons pas dit, nous ne l'avons pas. Mais là, c'est pas la même chose. Il dit pas simplement, nous ne l'intégrerons pas dans le futur gouvernement, ce qui est audible. Le président de la République est libre de faire ça. C'est d'ostraciser 13 millions d'électeurs.
En fait, c'est les brevets de républicanisme.
C'est de faire de 89 députés de la République des parias. Alors, et ça, c'est inacceptable dans une République comme la nôtre.
Vous vous souvenez de votre bac? Vous deviez avoir une belle plume.
Moi, j'ai passé deux bacs.
Ah ouais, moi, j'avais une belle plume.
Non, mais il y a une période où il y avait un bac de... Enfin,
il y a une période...
On appelait ça premier bac et second bac.
Bac de français. Après,
mais oui.
Non. C'était même avant. Ah,
le certificat d'études supérieures que les moins de 20 ans. Bon. Non, je vais vous soumettre quand même une copie. Alors, c'est René Chiche, c'est un professeur de philosophie qui est très prolique sur les réseaux sociaux, qui en parlait tout à l'heure à Pascal Praud. C'est vrai que je me suis penchée sur la copie. Et en plus, il dit « j'ai pas choisi la moins pire ». À tout de suite. Merci d'être avec nous. On va retourner à l'école tout à l'heure. Ça fait plaisir à Jean-Luc Burger. Enfin, à l'école, quand même. Baccalauréat. Tiens, je vais vous demander, j'ai très envie de savoir les mentions, les notes, etc. En plus, on a un docteur en philosophie et je vous soumettrai une copie. Et vous allez voir, hein, selon le professeur qui nous l'a soumis, cette copie, c'est pas la moins pire. Donc, c'est assez édifiant. Mais tout d'abord, le journal, il vous est présenté par... Mickaël, rebonjour à vous, Mickaël.
Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Vladimir Zelensky veut faire son maximum pour mettre fin à la guerre avant la fin de cette année 2022. C'est ce qu'a déclaré le président ukrainien lors du sommet du G7 qui se tient jusqu'à demain en Bavière. Vladimir Zelensky a aussi appelé les différents chefs d'État à intensifier les sanctions contre la Russie. Le procès de Jean-Marc Reiser, assassin présumé de Sophie Le Tan, s'ouvre aujourd'hui à Strasbourg. Noémie Schulz est en direct des assises du Bas-Rhin. Noémie, le procès s'ouvre à 14h avec pour cette première après-midi l'étude de la personnalité de Jean-Marc Reiser, une épreuve pour la famille de Sophie Le Tan.
Oui, les proches de Sophie Letagne qui doivent assister à ce procès, même si la sœur ne sera sans doute pas présente. C'est une épreuve trop lourde pour elle, a expliqué l'avocat de la famille. Une famille qui espère que ce procès va permettre de recoller les morceaux du puzzle, de comprendre quels ont été les derniers instants de Sophie Letagne. On sait que cette jeune fille qui fêtait le jour de sa disparition ses 20 ans, eh bien, s'est rendue au domicile de Jean-Marc Reiser, pensant visiter un appartement. Elle cherchait une location. Elle avait trouvé une petite annonce sur le bon coin. Elle n'a plus jamais donné signe de vie. Très rapidement, un suspect est interpellé. Il s'agit de Jean-Marc Reiser, un homme au lourd passé judiciaire, condamné à 2 reprises pour viol et jugé pour le meurtre d'une jeune femme au début des années 2000. Des faits pour lesquels il avait été acquitté au bénéfice du doute en l'absence de preuves formelles. Cet homme, pendant des mois, il a nié toute implication, malgré des preuves parfois évidentes, la téléphonie, mais aussi des traces de sang de Sophie retrouvées dans son appartement, retrouvées aussi sur une scie qu'il avait cachée dans sa cave. C'est presque par hasard que le corps de Sophie Letagne avait été retrouvé plus d'un an après sa disparition par des promeneurs. Jean-Marc Reiser, qui a toujours nié toute, qui a fini par reconnaître les faits, mais en niant toute préméditation, va-t-il expliquer les raisons de ce déferlement de violence? C'est la question qui se pose à quelques minutes de l'ouverture de ce procès.
Merci Noémie. Les images sont signées Sacha Robin pour CNews. Autre procès, celui du 13 novembre qui s'est achevé ce matin. Après 10 mois de débat, le verdict est attendu mercredi. Ce matin, la Cour a donné une dernière fois la parole aux accusés. Pour l'avocat des parties civiles, Jean Reinhardt, le discours de Salah Abdeslam a beaucoup évolué depuis le début du procès.
Monsieur Abdeslam, il est dans un discours évolutif, il est caméléon. Il est caméléon depuis le début, c'est-à-dire qu'au début, il est arrivé avec une position très forte, et puis après, il a joué des parties civiles, il a joué de la cour, il a joué des silences, il a joué de simili-révélations. Je dirais que ce dernier propos, où il raconte malheureusement des scènes qui se passent parfois en prison, ne m'ont pas ni étreint, ni bousculé. Il n'a pas compris ce qu'on peut lui reprocher depuis le début dans ce dossier, c'est-à-dire qu'il est un co-auteur plein et entier des actes qui lui sont reprochés.
Couper la lumière en sortant d'une pièce ou encore éteindre les équipements informatiques, EDF, Engie et Total Energy appellent les Français à limiter immédiatement leur consommation de carburant, de gaz et d'électricité. Alors êtes-vous prêt à limiter votre consommation? On est allé vous poser la question directement.
Je pense que je serais prête à baisser le chauffage, quitte à m'habiller un peu plus chaudement à la maison, acheter une deuxième couette, histoire voilà, de me réchauffer. Mais baisser le chauffage, je pense que c'est plutôt pas mal.
Je marche, je prends plus ma voiture, enfin je la prends au minimum. Et puis voilà, après je vais essayer d'enlever les prises de courant que je peux débrancher notamment.
Principalement sur ce qui est machine à laver ou tous les appareils qui peuvent rester allumés, on va dire, au quotidien. Essayer de les fermer un maximum ou alors de faire tourner par exemple les machines en heure creuse.
Pour des raisons économiques aussi, mais écolo, je ne prends plus ma voiture quasiment. D'ailleurs, on va peut-être la vendre. Et par contre, je prends un scooter. Mais ça consomme quand même beaucoup moins qu'une voiture.
Voilà pour l'actualité. La suite des débats de Midi News avec Sonia Mabrouk et ses invités dans un instant, juste après les sports.
Retrouvez la chronique sport avec Unibéo Piscine, créateur des piscines sur mesure. piscineunibéo.com.
Fabio Quartararo, visage fermé et en allant s'excuser, coupable d'avoir ruiné sa course et celle d'Aleix Espargaró.
M'excuser, parce que voilà, je pense que le vainqueur d'aujourd'hui, c'était lui, vu le rythme qu'il avait. Donc voilà, juste m'excuser de mon erreur.
Une erreur commise dès le 5e tour, quand le pilote Yamaha forçait pour reprendre sa 2e place à l'Espagnol.
Où est-ce qu'il va pouvoir attaquer, Fabio?
En tout cas, pas la dernière chicane, déjà.
Oh, bah voilà. Et bah ici. Voilà. Dans le virage. Oh non, non. La chute! La chute de Fabio Quartararo, qui est venu à l'intérieur sur Aleix Espargaró, mais il a perdu l'avant.
C'était la chronique sport avec Unibéo Piscine, créateur des piscines sur mesure. piscineunibéo.com.
C'est impressionnant, là, la chute. Hein,
ouais. Il est tombé 2 fois, en plus, pendant ce... Il s'est relevé, il est reparti, et il est... si vous voulez tout savoir, il a même été...
Ah ben si, mais maintenant, je suis obligée de tout savoir.
Il a même été accusé d'être responsable de cet accident.
Mais c'est la preuve que vous suivez les antennes de Canal+, hein, avec ces championnats.
Mais il y avait très peu de sport ce week-end, malheureusement, il y avait
Et je vous propose du sport pour le débat qui vient là pour cette heure-ci avec Jean-Luc Burga qui est journaliste, Naïma M. Fadel, essayiste, conseillère en politique de la ville, Arthur de Vatrigan qui est cofondateur du magazine L'Incorrect. Et on est très heureux d'accueillir Samy Ghazouni. Bonjour à vous Samy.
Bonjour Sonia.
Merci d'être là, essayiste, docteur en philosophie, auteur également. Et justement, on reviendra avec vous sur la laïcité tout à l'heure. Vous êtes l'auteur avec Anne-Sophie Nogaret d'un essai moi, que j'avais lu avec grand plaisir, c'était il y a 2 ans, en 2020. Français malgré eux sur les racialistes, les décolonialistes, les indigénistes, etc. Formidable essai. Ah, vous l'avez pas lu?
Non,
ah,
désolé, bah, mais
on sert à quelque chose.
Je m'empresse.
Et on prophétisait effectivement l'arrivée de la thématique de la race en France au moment où tout le monde pensait que le pacte républicain tiendrait solidement. On voit bien aujourd'hui ce qu'il en est.
L'un des premiers livres qui m'a éveillé à ce sujet et à ces problématiques-là. C'est vrai que ce n'est pas évident de les appréhender quand on dit woke, racialisme, etc. Donc je vous invite à lire ce livre aux éditions L'Artille. On va en parler tout à l'heure avec la liste. Mais tout d'abord, docteur en philosophie, évidemment, ça va nous aider. Mais vous tous, René Chiche. René Chiche, c'est un professeur aussi de philosophie. Il est très prolixe sur les réseaux sociaux. Il était l'invité tout à l'heure de Pascal Pro. C'est la même dénonciation du bac au rabais. Vous savez, c'est un petit peu le marronnier qui revient chaque année. Mais malheureusement, ça semble s'empirer. Regardez la copie qu'il nous a soumise. On va voir peut-être un extrait. Et en plus, il dit que ce n'est pas la pire des copies. Alors, vu comment c'est écrit, je peux avoir vos lunettes, Jean-Louis, un instant. Bon, mais je crois que c'est assez. Voilà. L'État ne devrait pas décider car l'État ne connaît pas le passé de chacun. Je pense qu'on peut s'arrêter à la première ligne. Je pense qu'on peut arrêter le massacre à la tronçonneuse. Moi, j'ai envie de savoir. Imaginez, vous avez une copie comme celle-ci. Qu'est-ce que vous faites? Vous bondissez? Vous la déchirez? Non, vous ne pouvez pas la déchirer. Qu'est-ce que vous faites?
C'est compliqué. Alors, j'en corrige aussi. J'en ai rarement vu de ce niveau-là, mais ça existe, malheureusement. Le devoir du professeur, c'est de le corriger quand même et d'essayer d'en tirer la substantifique moelle, si jamais il en existait une. En tout cas, d'en trouver les éléments d'argumentation. Ce qui est vrai, c'est que ça témoigne effectivement d'une baisse qu'on ne peut que constater. Ce n'est pas parce que c'est un marronnier qu'il ne faut pas en parler. Au contraire, c'est un vrai sujet. Et c'est un sujet auquel s'arrime la question de la sélection à l'université, en fait. On ne peut pas dissocier les deux. Donc, soit on fait le choix de l'exigence et on ramène toujours tout le monde à son vrai niveau et à celui d'une équité généralisée, soit on continue la fuite en avant, on continue à améliorer les statistiques d'année en année. On arrivera bientôt à 100% de succès au bac, on y est quasiment. Aujourd'hui, le baccalauréat, c'est à peu près ce qui était le brevet en termes de succès il y a 30 ans ou il y a 25 ans. Donc je pense qu'il y a véritablement un sujet derrière tout ça, c'est pas anecdotique malheureusement.
Quand vous dites c'est très juste faire le choix de l'exigence, et vous avez dit un mot, mais alors tabou, ça me dit, mais un tabou, le mot sélection. Mais alors là, vous le prononcez aujourd'hui, c'est le monstre, c'est l'épouvantail, le mot sélection.
Mais le mot sélection peut aussi être une manière de rendre service aux enfants. Quand les enfants n'y arrivaient pas, notamment au sixième, l'entrée en sixième, et qu'il y avait la fameuse sixième de transition, ça permettait tout simplement de renforcer en maths, français, etc., pour que l'élève revienne un parcours entre guillemets général, hein, pour pas. Donc le problème, c'est qu'on n'a pas rendu service à ces gamins. Moi, dans le cadre de mes missions, j'ai pu voir qu'on surnotait les enfants. Mais en fait, on leur rendait pas service parce que quand ils arrivaient dans une autre école, et notamment quand ils devaient se confronter et à l'université notamment, ils se retrouvaient en difficulté. Donc en fait, on ne rend service à personne parce qu'en plus, en baissant le niveau, on baisse aussi le niveau des autres. Donc c'est ça le problème. Et tant qu'on mettra encore, une fois on parlait de la poussière sous le tapis, ben on n'y arrivera pas. Et regardez la situation qu'on a aujourd'hui.
Et puis quel citoyen cela va donner? Parce qu'on leur donne l'illusion de la maîtrise de la langue, l'écriture, qui est une arme d'intégration massive, d'ailleurs, quelles que soient les origines, etc. Arthur de Vatrigan. Bon, alors René Chiche nous dit que ce n'est pas la pire des copies, c'est qu'il a sélectionné presque...
La meilleure, non la pire. Mais rappelez-vous le slogan de Chevènement 85, hein, amener 80% d'une classe d'âge au bac, dites-vous 2000. Bon, là, vous l'avez dit, on est entre 88 98. Et 93 en fonction des années. Donc, pour une fois que l'État a atteint un objectif, c'est bien, il faut le féliciter. Sauf que le problème, c'est que le baccalauréat, vous ne l'avez pas, vous êtes pris nulle part, vous l'avez, vous ne sert à rien. C'est ça, la réalité. Donc,
À quoi sert le bac? Quand on voit les réformes de Blanquer au début, ça a un peu commencé, c'était comment ça passe en contrôle continu, on allait quand même de plus en plus vers la fin d'un examen national. C'est d'un côté, on pousse pour que tout le monde l'ait, et d'un côté, en même temps, on fait tout pour que cet examen ne soit plus un examen national et surtout n'ait aucune valeur. Donc la question, c'est à quel moment il y a une sélection?
Parce alors comment on fait pour avoir la culture de la sélection sans que ça devienne un gros mot, sans que ce soit.
Le problème, c'est qu'on a une culture de l'égalitarisme. On refuse la sélection, on refuse l'inégalité. On a une inégalité de fait. Tout le monde n'a pas la même intelligence. Tout le monde n'a pas les mêmes compétences. À partir du moment où vous ignorez ça et vous combattez ça, bah vous allez combattre tout ce qui est symptôme et tout ce qui est symbole de sélection. Et donc, la classe étant le truc le plus visible aux yeux de tout le monde. Mon fils, il a 10, lui, il a 19, c'est pas juste, ça va pas, donc on allait. Combien de fois on a parlé de supprimer les points,
prenons un exemple concret. Moi, comme vous l'avez souligné, j'ai un certain âge. Et comment est-ce que j'apprenais l'orthographe et l'écriture quand j'étais à l'école? C'était ce que je lisais au tableau du maître, et puis c'était des livres éventuellement. Aujourd'hui, comment est-ce que les gosses apprennent la lecture? Vous le savez, ils l'apprennent avec leur téléphone portable sur des phrases écrites par leurs copains. Ou par par une sorte d'écriture internationale qui va qui frôle le wokisme par moment ou l'écriture inclusive dans des situations qui ne sont pas faites pour apprendre. Donc là-dedans, il y a peut-être quelque chose sur lequel il faut.
C'est point intéressant parce que. Alors non, l'école continue à enseigner sur les livres, bien heureusement, et dès le CP. Mais ce qui est en revanche intéressant, c'est l'environnement a changé. Effectivement, l'environnement est beaucoup plus perturbateur parce que il est beaucoup moins aligné avec les fondamentaux qu'on enseigne à l'école. C'était beaucoup plus simple du temps de Proust. Finalement, on écrivait et on recevait des missives qui ressemblaient aux textes classiques qu'on étudiait en classe. Aujourd'hui, effectivement,
sans aller jusqu'à Proust, de mon temps, c'était
oui, bien évidemment, et celui de mon père aussi. Mais c'est la preuve qu'il faut justement désaligner et donner la plus grande des exigences, la prérogative de l'exigence à l'école. Et d'ailleurs, je vais peut-être ajouter un point, si j'ai une petite seconde sur cette chose. Si l'on croit vraiment à la question de la justice sociale, et si on la souhaite résolument, la plus grande des injustices, c'est celle des apprentissages. En fait, c'est celle qui saisit les individus au moment de leur maturation. Donc, si on veut réaliser l'égalité dans les faits, dans les droits à l'existence, dans les faits, il faut commencer par l'école. On le sait tous, donc ayons ce courage-là.
Le courage s'appuie sur un diagnostic lucide. Moi, à chaque fois que j'ai demandé à des syndicats, le SNEP, etc., ils m'ont dit, mais c'est faux. Arrêtez de dire bac au rabais, arrêtez. Mais je vous assure qu'on masque un effondrement, il faut le dire, je ne noircis pas à souhait ce qui se passe, mais c'est un effondrement du système scolaire et qui est caché aujourd'hui par certains syndicats, je ne dis pas tous, mais qui disent, non mais regardez, ça se maintient, tout va bien, on continue. Vous savez, le Titanic. On trinque champagne, on est en train de couler avec élégance et on ne voit pas ce qui se passe.
Et
on pénalise.
Pizza, on est 22e sur 24, donc c'est une catastrophe. Là,
et quand vous le dites, on vous extrême droitise, on dit que vous
marxistez. Quand les Ukrainiens arrivent, on se rend compte qu'on est nul en maths.
Ouais. Ah, les Ukrainiens, oui.
Oui,
c'est vrai. Et les capacités d'adaptation des enfants dans différentes régions, on me le rapporte, exceptionnel.
Après, il y a ce niveau-là, il y a un manque d'exigence, mais le problème, c'est que c'est quelque chose qui dure depuis 20 ans. Et donc, à bout d'un moment, vous avez aussi des gens qui n'ont pas eu la bonne instruction, et pas éducation, et qui deviennent profs à leur tour. Et donc, le problème, c'est que quand vous ne maîtrisez pas la langue, quand vous ne maîtrisez pas la lecture, les fondamentaux, tout ça, c'est compliqué aussi d'enseigner derrière. Moi, c'est ça qui est compliqué. Hein.
Et à côté de ça, alors je vais rebondir sur ça parce qu'on voit bien qu'en fait, on veut faire croire que ces gamins-là, notamment des quartiers populaires. Eh bien, écoutez, il y a tout
un mensonge.
Système. Je pense qu'il y a une posture qui fait qu'on est dans le misérabilisme et qu'on tire vers le bas en pensant que ces gamins n'ont pas les capacités. Je vais vous citer un exemple. Des élèves que j'ai suivis dans le cadre de mes missions de délégué du préfet, des jeunes du Val-Forêt, le lycée militaire de Saint-Cyr, donner la possibilité, dans le cadre du concours, ce n'est pas la troisième voie, à des élèves de pouvoir intégrer le lycée militaire de Saint-Cyr et de passer le concours. On a fait un travail avec une association d'accompagnement à la scolarité en prenant des profs. Excusez-moi de dire des vrais profs, parce que souvent, c'est des animateurs qui faisaient l'accompagnement à la scolarité. Donc, des profs, maths, français, culture générale. On les a coachés pendant 3 mois. Les gamins ont passé le concours de Saint-Cyr sur 15. La première année, on est à la 6e année. La première année, il y en a 7 qui ont été reçus. Aujourd'hui, il y en a 106 qui ont intégré le lycée militaire de Saint-Cyr. Certains sont sortis majeurs de la promotion. Donc vous voyez, donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut arrêter ce misérabilisme qui encore une fois fait du mal et stigmatise
exigence.
Sous prétexte de bons sentiments.
Exigence et sélection devraient être les deux mamelles, si je veux dire, de l'éducation nationale. Bon, je vais vous poser d'autres questions. Alors pardon d'entrer un peu dans la vie privée, je vais vous demander à quels efforts vous pourriez consentir pour baisser l'énergie. Je sais que vous arrivez à vélo parfois, à pied, c'est dur. Jean-Louis Burgard. Mais tout d'abord, le rappel des titres, c'est CNews Info. Pardon.
Promis de continuer à fournir un soutien financier, humanitaire, militaire et diplomatique à l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Ils se sont exprimés dans une déclaration commune publiée lors de leur sommet dans le sud de l'Allemagne. Les 7 dirigeants se sont entretenus ce matin par visioconférence avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Au procès des attentats du 13 novembre, les 14 accusés s'expriment une dernière fois aujourd'hui devant la cour avant la délibération des magistrats. Les discussions vont durer 2 jours dans un lieu tenu secret et placé sous surveillance. La cour d'assises spéciale de Paris rendra son verdict mercredi après 10 mois d'audience. Et puis grève nationale des routiers aujourd'hui. Des barrages filtrants étaient organisés ce matin à l'appel des syndicats de routiers à l'entrée de plusieurs zones industrielles un peu partout en France. Les syndicats demandent la réouverture immédiate des négociations salariales.
Bon, avant de passer au sujet sur la consommation d'énergie, je voudrais qu'on écoute quand même le professeur qui a montré cette copie, René Chiche, qui était chez Pascal Pro tout à l'heure. Écoutons-le.
Bien sûr, je suis en pleine correction en ce moment et effectivement, j'ai été assez peiné et attristé parce que cette copie, c'est pas la seule, évidemment. Alors certainement, on va me dire, ah, mais c'est un 10, 10 orthographique, dyslexique, j'ai choisi la pire, etc. Non, je vous dis, que ce n'est pas la pire et qu'il y en a des dizaines de semblables dans mon lot. J'ai même, grâce à vous d'ailleurs, puisque c'est vous qui m'en avez donné l'idée, publié un livre sur le sujet qui s'appelle « La désinstruction nationale », dans lequel je dis tout.
Vous allez arranger mes affaires.
Mais je crois qu'il faut aller plus loin maintenant. Il faut aller plus loin. Il faut publier un livre entier avec les copies que nous sommes forcés de lire. Parce que l'hypocrisie, ça suffit. Il y a un rapport direct entre ce dont nous parlons maintenant et ce dont nous avons parlé juste avant. L'éducation nationale, c'est à la fois le temple des lâchetés et l'empire du mensonge.
Un livre avec toutes les copies... une bibliothèque dans ce cas-là. Tome 1, tome 2.
C'est dur à lire surtout. Sinon, go hors la concurrence.
Alors, à quelle concession êtes-vous prêt pour limiter votre consommation d'énergie? Éteindre la lumière, utiliser votre lave-linge en mode éco? Vous savez,
oui. Je demanderai des informations.
Installer.
Mettez le soir, ça peut.
Attention. Installer un chauffage en bois. Ne prendre aucune douche par semaine. Évitez de venir à l'émission, s'il vous plaît, dans ce cas-là. Voilà les conséquences, les répercussions. Et ce n'est pas fini, évidemment, la guerre en Ukraine. Mais la question que je pose, c'est que va-t-il vraiment se passer l'hiver prochain? Et là, c'est un sujet, évidemment, extrêmement sérieux. Le sujet de Simon Guélin, puis vous nous direz quels efforts vous allez consentir.
Ils appellent les Français à limiter immédiatement leur consommation de carburant, de gaz et d'électricité. L'effort doit être immédiat, collectif et massif. Chaque geste compte. Les dirigeants d'EDF, d'Engie et de Total se sont accordés. Et face à cet appel, les Français semblent plutôt compréhensifs et prêts à faire des concessions.
Dans tous les cas, on n'a pas trop le choix. Il y a des choses qui sont arrivées suite à la guerre.
Arrêter les appareils en veille, sortir plus et rester moins chez soi.
Bon, j'ai déjà réduit un petit peu ma consommation en baissant d'un degré, mais est-ce que tout le monde va pouvoir faire ça?
Comme plusieurs pays d'Europe, la France ne reçoit plus de gaz russe. Mais le président de la Commission de régulation de l'énergie se veut rassurant.
Oui, nous avons pas des craintes ni des doutes, nous avons à travailler pour qu'on passe correctement l'hiver en approvisionnement.
On n'en est pas sûr.
Moi, j'en suis sûr, mais chacun...
Ah, mais sait... quand vous parlez, vous dites que l'hiver va être tendu. Ça veut dire quelque chose.
Oui, l'hiver va être tendu et je pense qu'on va arriver à passer l'hiver.
Le gouvernement confirme de son côté envisager le redémarrage provisoire d'une centrale électrique à charbon à Saint-Avold, en Moselle.
Voilà. On va passer l'hiver. Moi, je vous dis, je ferai des efforts quand on rouvrira Fessenheim.
Ouais, ben,
voilà. Exact. Voilà. C'est du donnant-donnant dans la vie.
Non, ça rappelle,
j'ai toujours pas compris pourquoi on l'a fermé.
Ça rappelle 1974, quand Valéry Giscard d'Estaing disait « on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ».
Voilà, je crois qu'on a perdu les deux là. Non, ne soyons pas pessimistes.
Qu'on s'est fait embarquer.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'opinion publique, la culture, le changement. Quand on vous dit réduire votre consommation d'énergie, Samy Piazini, comment vous vous réagissez? Est-ce que ça s'appelle la sobriété et on y est tous contraints collectivement? Est-ce que c'est un effort à consentir?
Je pense qu'il faut dissocier la situation particulière, voilà, qui est celle que l'on traverse. Effectivement, il y a cette crise de l'approvisionnement énergétique qui est inédite depuis 40 ans, depuis le dernier choc pétrolier. Donc il faut s'adapter. Et là, on est dans le court-termisme. Donc effectivement, on sait qu'il y a des pics de charge. Là, on parle de choses techniques. Hein. On ne parle pas de l'urgence climatique. On ne parle pas de changement, la sobriété à long terme. On parle très concrètement d'éviter des pics de surcharge pour les infrastructures et les approvisionnements. Donc là, peut-être qu'effectivement, collectivement, on peut être un peu plus vigilant. Mais la vigilance n'est pas un changement de comportement. C'est un changement de tactique.
Ah.
La vigilance, c'est à un moment donné, on s'adapte. Ce qui ne veut pas dire qu'on est en train de parler de changement séculaire, d'habitude et de mode de pensée et de rapport à la modernité. Maintenant, plus fondamentalement, est-ce que cela a un sens et comment faut le percevoir? Très, très, très honnêtement, des efforts qui peuvent être consentis de manière ponctuelle, oui, on peut tous l'entendre et je pense qu'on peut tous en faire. Et je pense que cela amènera quelques bonnes habitudes aussi. On est tous confrontés à des climatisations trop fortes, à des oublis de lumière. Bon, c'est pas grave, ça se fait. Maintenant, plus fondamentalement, ce ne sont pas ces petits efforts qui changeront la trajectoire climatique du monde, et ça, il faut le comprendre. C'est l'effort collectif, c'est des choix politiques comme Fessenheim. Et là, c'est collectivement la prise de conscience qu'il faut changer de modèle.
C'est pour ça. C'est peut-être un peu démagogue, mais je dis. Quand vous aurez des choix politiques, je veux dire, sans zigzag, alors, dans ce cas-là, évidemment, on changera. Alors, par exemple, quelle température est votre logement, si je peux me permettre, Arthur Vatrigan?
Je peux me permettre, alors c'est une bonne question.
Vous devez être à 20 degrés.
Avant, bah, peut-être.
Il faut descendre à 16.
Je me demande s'ils vont nous confiner sans chauffage à la Noël, en fait. C'est surtout ça, la question.
Non, mettez pas tous les problèmes.
Non, mais je pense qu'il y a... en fait, la question, c'est ça, c'est zigzag. C'est que, évidemment, qu'à partir du moment où il y a une situation exceptionnelle, on commence à avoir beaucoup de situations exceptionnelles. Le retour de l'histoire, on commence à vraiment le sentir passer. On peut faire des efforts. La question, c'est on est prêt à faire des efforts à partir du moment où il y a une contre... il y a à partir du moment où le gouvernement est clair sur sa stratégie. Et évidemment que là, c'est la fin des temps glorieuses, le paradigme de toute consommation, immédiateté, évidemment qu'on n'est plus là. Et il y a la question de l'indépendance, hein, parce qu'on dit, nous, on nous demande de fermer notre radiateur, mais le Qatar va mettre des climatisations au foot. Oui, mais sauf qu'eux, ils ont du gaz à volonté, pas nous. Donc on a cette question-là qui se pose. Et quand on voit que le gouvernement dit, on ferme le nucléaire, on ferme le charbon, ah mais finalement, l'éolienne, ça marche pas très bien, on va réouvrir le charbon, on peut se dire, ok, je vais faire des efforts, mais pourquoi faire? Pour rappel, on a investi 150 milliards dans le solaire et dans l'éolien. En 15 ans. Est-ce que ces 150 milliards, on n'aurait pas pu, je sais pas, changer les modes de chauffage des gens en passant du fioul à la pompe à chaleur, par exemple? Est-ce qu'on n'aurait pas pu isoler toutes les maisons de tout de chacun?
Vous vous souvenez quand on nous disait avant, acheter des diesels, acheter, oui. Acheter?
Ou voilà,
vous souvenez toutes ces publicités, maintenant arrêter.
Voilà, bah arrêter, ok. Bah, au lieu de mettre 150 milliards dans des éoliens qui détruisent, la géographie qui est moche et en plus qui ne sert pas à grand-chose, bah peut-être qu'on va aider les gens à changer de voiture.
Trouver l'éolien moche
et changer de voiture. Électrique, ça a un coût.
Il y a une vraie question.
Et vous nous la direz dans quelques instants après la pause. Il y a une vraie question, a dit Jean-Luc Burger.
Sur la construction des villes, oui.
Encore faut-il que les gouvernements soient cohérents. Justement, on va parler un peu de politique, parce que je sens que ça vous démange, ça vous gratouille de parler de ce qui va se passer cette semaine. Gouvernement d'action, de coalition, avec qui, quoi, comment, quel débauchage, quelle trahison, pour quelle politique. On va en parler, puis on reviendra quand même sur Pape Ndiaye. Ça m'intéresse aussi d'avoir votre avis, évidemment. Samy, vous avez écrit sur ces sujets-là. À tout de suite, une courte pause et on se retrouve. La suite de Midi News, vos débats, et on attend. On attend le nouveau gouvernement avec impatience. Les Français attendent.
Vous êtes impatiente.
Je brûle. Jean-Louis, mais d'abord, je vous fais encore attendre. C'est News Info, les titres avec Audrey.
Le gouvernement propose de plafonner la hausse des loyers à 3,5% pendant un an. Le but, limiter l'impact de l'inflation sur les locataires. Et puis une réunion de la ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, Amélie de Montchalin, est par ailleurs prévue dans la semaine avec les associations de locataires. 627 signalements pour atteinte à la laïcité dans l'éducation nationale. C'est le dernier chiffre communiqué par le ministère entre décembre 2021 et mars 2022. Parmi ces signalements, le port de tenues religieuses dans les établissements scolaires, il est en hausse de 7% par rapport au trimestre précédent. Et enfin, en tennis, le tournoi de Wimbledon débute aujourd'hui à Londres. L'état de santé de Rafael Nadal va être scruté de près. L'Espagnol se veut rassurant avant son premier tour demain. « Si je suis là, c'est que ça va mieux », a-t-il dit en conférence de presse. Le dernier vainqueur de Roland-Garros a subi des injections légales au pied gauche.
Une semaine de consultations, de tractations, de discussions. Est-ce qu'il y a d'autres synonymes pour arriver à un gouvernement d'action ? Il ne dit pas de coalition, donc ça, c'est la mission en tous les cas d'Elisabeth Borne. Si elle l'accepte, elle n'a pas le choix. Mandatée par Emmanuel Macron. Moi, je vous demande quelle image. Vraiment, je me dis, donc d'ici vendredi, elle va consulter, etc. Encore un nouveau gouvernement élargi sans Rassemblement national et sans la France insoumise. Quelle image cela renvoie selon vous ?
Bon, je pense que c'est assez, on est assez coutumier de ce type d'organisation. Ouais. Après une élection, on remanie. Donc, il n'y a rien d'anormal dans la situation. En revanche, la situation, elle a changé. Effectivement, le substrat sur lequel ce remaniement s'effectue, effectivement, n'est pas tout à fait le même. Une fois que le gouvernement a clarifié, enfin, que Emmanuel Macron a clarifié le fait qu'il n'élargirait pas aux extrêmes, et j'aime pas ce terme, donc aux partis, à la LFI et au Rassemblement National, les choses sont relativement claires. Ce qu'il va essayer de, ce que Emmanuel Macron va faire, et ses éléments de langage sont extrêmement clairs, c'est essayer d'avoir un gouvernement d'action, mais action veut dire pragmatisme. Donc essayer de ménager d'une part les sensibilités, d'autre part d'essayer d'avoir une forme de consensus, alors qui sera mou, parce qu'en réalité, les personnes qui sont dans le dissensus sont en dehors de ce consensus. Donc on sait très bien que ça va être difficile. Et puis enfin, s'approcher de vers quelque chose qui va lui permettre quand même de finir sur une note plutôt positive, qui est l'unité, l'union nationale. Donc il va faire il va avoir une composition, et à cœur d'avoir une composition qui reflète cet idéal-là. Mais je ne sais pas s'il va y parvenir.
J'ai une vraie question quand on dit le RN et la France insoumise, non. Bon, je peux comprendre dans le gouvernement, mais j'ai envie de savoir qui fixe ce cercle de la raison, en réalité, ce cercle de la respectabilité. Comment vous le délimitez ? Parce qu'il y a des personnes qui sont... Par exemple, je dis Robert Ménard, qui ne cache pas ses intentions de rentrer au gouvernement. Il est quand même... Il a soutenu Marine Le Pen, enfin mollement, mais il est quand même plutôt de cette tendance-là. Et aujourd'hui, il manifeste son envie d'entrer au gouvernement. Alors, est-ce qu'il est dans le cercle, sur la ligne du cercle, dans l'épaisseur du trait ? Comment on fait ?
Robert Ménard, il a changé de cercle plusieurs fois dans sa vie. Il est rentré, ressorti... Bon, il a le droit de changer, il a le droit d'évoluer ses convictions. Il a évolué assez vite quand même ces deux dernières années, ce qui est assez amusant.
Il a des fidélités successives, on va dire.
Oui, voilà. Souvent, Robert varie. Mais là, en effet, ce qui est intéressant, c'est qu'il veut refaire le cercle de la raison en passant au-delà des urnes, tout simplement. Voilà, il dit, je délimite le terrain. Alors, ce qui est toujours amusant, c'est de voir que les communistes, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas extrémiste, 100 millions de morts, en détail. Famille Roussel qui explique Staline, ce n'est pas vraiment un dictateur, ça ne dérange pas non plus. C'est quand même, c'est lui qui détermine partie de gouvernement ou pas. C'est lui qui a le monopole de savoir qui peut gouverner ou pas. Sauf que dans toute cette analyse qui est assez intéressante depuis une semaine, il y a quand même quelque chose encore que beaucoup ont oublié, c'est l'abstention. On ne parle pas d'abstention.
D'ailleurs, il y a quatre blocs. Il y a l'extrême centre, l'extrême gauche, l'extrême droite, et il y a les Français.
Ça serait une erreur de renverser comme ça ou le balayer d'un revers de main en expliquant c'est juste parce qu'il est trop beau ou parce qu'il pleuvait trop. Les gens ne sont pas allés voter. Il y a une abstention politique dedans.
Non, mais il y a surtout une abstention des jeunes qui est effrayante.
Mais qui peut être politique.
Et alors, comment vous en tenez compte ?
Et donc, là, si vous regardez, il a dit qu'il y a des points non négociables. La retraite. La NUPES a fait campagne contre la retraite. Mais la NUPES ont toute la gauche. Marine Le Pen a fait campagne contre la retraite. Ah, oui. L'abstention, on la renjoue. C'est-à-dire qu'il y a des points non négociables, mais qu'en fait, la majorité ont retoqué. Donc, comment ça se passe ?
Arthur, il va vous dire qu'il a été élu. Alors, c'est vrai que l'entre-deux-tours, on n'a pas compris la retraite à 60. Mais bon.
Mais c'est vrai, il a été élu, que ce soit contre ou par défaut, il a été élu. Et c'est vrai que finalement, quand il dit je fais une coalition. Enfin, je demande à Elisabeth Borne de constituer un gouvernement sans la NUPES. Et le Rassemblement National.
Sans LFI.
Parce que les socialistes, les communistes.
D'accord. Sans LFI, et effectivement, vous avez raison. En fait, j'ai envie de dire, c'est son droit, en fait. C'est lui qui est aujourd'hui élu.
Ah oui, mais l'analyse. Intéressant. Oui, mais. C'est des millions de Français à qui vous dites, écoutez, vous avez voté, mais.
Effectivement, on peut s'interroger, parce que. Mais c'est vrai que. Il peut avoir cette démarche-là. Ce que je n'aime pas, c'est que, par exemple, on ne reconnaisse pas que ce sont des élus de la République, que ce soit NUPES ou bien le Rassemblement national, et qu'ils ont été élus par des Français et qu'ils ont droit à l'égalité de traitement au niveau du Parlement. Par contre, en revanche, ce que je voudrais juste dire par rapport à Elisabeth Borne, alors ça, c'est intéressant, parce que par rapport à cette situation, moi, je trouve que le fait qu'il ait pris une technocrate, c'est plutôt malin.
Vous allez pas me faire l'éloge des technocrates,
Non, mais dans cette situation-là, par rapport à cette situation-là, je trouve que le fait d'avoir pris une technocrate qui va avoir une démarche de consensus, de compromis, comme si elle allait travailler dans une espèce de démarche partenariale, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Pourquoi ? Parce qu'elle évite, il évite ainsi la confrontation de politique. Oui. Parce que si c'est un politique au niveau du Premier ministre, si c'est un politique, c'est la confrontation sera beaucoup plus forte, je pense.
Oui, oui. Mais la politique, c'est l'art du compromis, justement. Ce qui manque, c'est cette malice, ce savoir-faire, cette négociation. On est dans une assemblée qui, justement, tout sauf technocrate.
Tout est tellement politique.
Tout est politique.
Vous voulez ajouter ?
Simplement, c'est pas la situation à laquelle on fait face, elle n'est pas si différente d'une situation usuelle. En réalité, si on avait eu une élection avec un parti élu majoritairement, alors là, il s'agit d'une majorité relative, mais elle a la majorité, donc je parle de l'AREM, et un parti d'opposition, les choses auraient été claires, personne n'aurait dit, et personne n'aurait accusé le président de ne pas faire entrer l'opposition. Donc c'est la même chose, sauf que d'avoir une opposition en bloc, on a une opposition qui est scindée en deux. C'est tout. Donc il n'y a rien de différent, il n'y a pas de déni démocratique, ça ne se passe jamais comme ça. Si on a arrimé... Désolé pour le double emploi d'arrimer ce soir. Je sais pas pourquoi.
Non, mais c'est vrai, c'est pas une crise de régime, vous avez raison.
Pas du tout.
C'est pas ingouvernable, contrairement à tout ce qu'on entend.
Si on a arrimé la législative à la présidentielle, c'est justement pour qu'il puisse y avoir un alignement entre la formation gouvernementale et le président de la République. Donc voilà, c'est d'avoir un exécutif aligné. Donc il n'y a rien de nouveau, rien de particulier. Le Parlement jouera son rôle de contre-pouvoir, plus que jamais, avec beaucoup plus de véhémence. Quant au point du profil, je vous rejoins, c'est un profil managérial. De toute façon, quand on fera le bilan, le président Macron n'est pas un président de la République, c'est un manager. Il n'a pas de conviction, il manage, il écoute, il est dans une forme de consensus qui est le sien, qui accepte et qui vit avec la contradiction. Et ça, c'est typique d'un manager. Donc ce qu'il demande à Elisabeth Borne, très probablement, c'est de suivre cette ligne-là. Et c'est ça la gouvernance que nous allons avoir, a priori, pour les 5 prochaines années.
Avec bientôt. Qui, Jean-Louis Burgard, juste je voudrais vous faire écouter, parce qu'il y a des nouvelles têtes, hein, par exemple le tout nouveau président du groupe LR à l'Assemblée nationale, Olivier Marleix, lui, il est assez clair et droit dans ses bottes, écoutons-le à ce sujet.
On a un président de la République qui, depuis 5 ans, a cherché à débaucher beaucoup, plus qu'à convaincre sur son projet. Moi j'ai le seul intérêt de ne plus être totalement un jeune premier, c'est que peut-être que mes actes, mes actions passées montrent que je suis quelqu'un d'assez fidèle dans son parcours. Et donc je pense qu'aujourd'hui on a beaucoup mieux à faire que de se vendre individuellement, c'est d'obtenir des avancées pour les Français, puisque nous sommes en position de nous battre pour d'obtenir, d'exiger du gouvernement qu'il nous écoute.
Je suis incorruptible, m'a-t-il dit. Personne ne va m'acheter.
Oui, mais c'est vrai.
Je respecte, mais je me souviens de tout ce que ceux qui m'ont dit, enfin nous ont dit ça, sont entrés au gouvernement après, mais ça ne veut pas dire que lui le fera. Hein.
On est au cœur de la politique. Emmanuel Macron va devoir gouverner en n'étant pas tout seul dans les décisions. Il va écouter d'autres personnes.
Vous me le dites comme si c'est naturel chez lui, Jean-Louis Burgard.
C'est pas naturel chez lui, mais c'est ce qui va se passer. Et coller des étiquettes, comme on a l'habitude de le faire depuis quelque temps, sur la Elisabeth Borne serait une technocrate.
Si vous dites que vous êtes une journaliste, c'est une vraie étiquette. Elle est technocrate, c'est la réalité.
Elle va fonctionner dans un environnement différent. Ça fait 3 semaines qu'elle est là. Elle va
comprendre. Les jours sont comptés. On insulte, hein.
Et elle est pareille, quand affirmer que Macron exclut des partis politiques.
On n'est pas en train de. Il y a des partis de critiquer. Non, mais c'est une réalité que c'est une technique. C'est pas une politique. Non, vous la connaissez dans les grandes manœuvres politiques.
C'est pas un gros mot. Enfin, je veux dire,
quelqu'un demanderait dans ses mots.
C'est pas grave. Mais justement, elle est technocrate.
Ce que je veux dire, c'est que. On est dans une situation que la France a déjà connue à plusieurs reprises. La France, je vous le rappelle, notre constitution dit qu'on est dans un régime parlementaire depuis le début, depuis 1958. Mais oui, c'est ça.
Oui, mais pardonnez-moi, ça a toujours été la verticalité.
Pas toujours.
Non, mais récemment, les 3 derniers...
Parce qu'on a, depuis ce mandat à 5 ans, depuis que les législatives correspondent exactement à l'élection présidentielle, il y a des choses qui se sont figées. Mais elles se sont figées d'une façon complètement...
Tant mieux. Alors vive la démocratie parlementaire et si vive Jupiter.
Non, mais je dis pas vive. Je dis on va regarder, on va attendre et on va écouter.
Il va attendre, Jean-Louis.
Mais la question, c'est est-ce que c'est une crise de régime ou une crise politique ? C'est pas la même chose. Une crise de régime, non, parce que l'institution continue.
C'est une crise de régime.
Oui, mais si c'est une crise politique, c'est embêtant, parce que Un régime parlementaire, c'est la délibération, et au nom de la délibération, on va trouver un bien commun. Là, le problème, c'est qu'on est sur des antagonismes très forts, et comme l'expliquait très bien Marcel Gauchet, on n'est plus sur des programmes, mais sur des identités, des affects, et avec des affects et des identités, vous ne débattez pas. Vous êtes une guerre de tranchées, et donc il n'y a plus de délibération politique.
Il va devoir convaincre. Regardez, Elisabeth Borne va devoir.
Avec des troupes, moi je m'intéresse aux troupes, en Papa Ndiaye, je voudrais vraiment tous vous entendre. Tout à l'heure, on en a un petit peu parlé, je voudrais un petit peu poser le décor, parce qu'on commence d'abord. Certains l'ont lu. On commence à connaître un petit peu, vraiment par petites touches, sa feuille de route. Et tout cela est résumé par Marie Conan. Regardez.
Le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, exclut catégoriquement de s'allier au Rassemblement national, quelles que soient les circonstances.
Il n'y a pas de compromis à avoir avec le Front national. C'est ma boussole politique. Je suis entré dans ma vie citoyenne à 20 ans par la lutte contre le Front national. Et cette boussole, je ne la perds pas.
S'il admet qu'un échange au sein des commissions dans l'hémicycle reste nécessaire, Pap Ndiaye ne perçoit en revanche pas d'avenir en commun avec un parti dont le projet politique va à l'encontre de ses valeurs.
Ce n'est pas parce que le Front national parle de République qu'il est républicain. Lorsque l'on propose la préférence nationale, on sort de la République telle qu'elle a été pensée, telle qu'elle est affirmée dans la Constitution.
Suite à sa percée spectaculaire aux élections législatives, le ministre admet crainte pour l'avenir de notre démocratie. Il tient à alerter sur les dangers d'une banalisation de l'extrême droite.
Cette entrée massive à l'Assemblée témoigne de son implantation durable. Évidemment, si l'on continue à en pointiller cette courbe en se projetant dans les années à venir, la question gravissime de l'accession du Front national au pouvoir ne relève plus de la fantasmagorie.
Pap Ndiaye le répète, l'objectif durant son mandat sera de rassembler tous les Français et accueillir tous les enfants, quelle que soit leur nationalité.
Quand vous lisez en détail cet entretien, ce qui est frappant aussi, c'est quand il dit l'accession donc, au pouvoir du RN n'est plus fantasmagorique, etc. Mais j'ai envie de dire, mais la responsabilité en incombe à qui? Comme si ils étaient spectateurs d'un phénomène et que les gens votent, c'est leur faute, ils votent mal, le peuple a mal voté, il n'a qu'à revoter, et nous on regarde ça et c'est inéluctable. C'est quand même assez...
Oui, alors, je sais pas. Un sens, c'est une forme de déni démocratique et d'absence de remise en cause. Bon, alors, vous aurez tous remarqué qu'il parle de Front national. Donc, il est resté ancré dans ses luttes militantes de sa prime jeunesse. Et je pense qu'il a relativement peu évolué sur le sujet. Par posture ou par conviction, je l'ignore. Et on verra effectivement dans les années à venir ce qu'il en est véritablement de ce qu'il pense. Ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'il ne mette pas, et aujourd'hui la situation l'exige, sur un même plan. S'il prend cette posture-là de centriste, ouvert sur le progrès, sur le même plan l'extrême gauche et ce qu'il appelle l'extrême droite. Et cette cécité-là, que les autres n'ont pas, marque une forme de singularité qui est inquiétante, parce qu'aujourd'hui, les périls dans l'école, je suis désolé, je ne connais aucun débat, et je me défie d'en trouver un, qui provient de la dite extrême droite sur les 15 dernières années. Tous les périls qui portent sur l'école sont ceux de l'entrée des idéologies woke.
Mais alors, allez plus loin, c'est intéressant. Alors, pourquoi cette forme de complaisance vis-à-vis de l'extrême gauche?
Malheureusement, il a des alliés objectifs au sein de cette extrême gauche. Il suffit de voir la levée de bouclier qui a été tout à fait malhonnête quant aux critiques qui lui ont été adressées lors de l'annonce de sa nomination. Finalement, les gens se sont interrogés sur ses écrits et sur son parcours, notamment son parcours américain et l'influence d'une vision du monde très teintée d'américanisme. Et on a répondu, si vous émettez ces critiques-là, c'est parce que vous êtes raciste. Oui. Je veux dire, très sincèrement, il a bénéficié d'un certain nombre de largesses de personnes qui ne devraient pas être ses alliés. Je vais quand même répéter quelque chose. Contrairement à ce que d'autres ont pu dire, et là je ne parle pas du même bord, il ne s'agit pas d'un des derniers indigénistes. C'est quelqu'un qui, effectivement, a aujourd'hui pris un parti qui est plutôt du côté woke, plutôt du côté néo-progressiste, mais c'est quelqu'un qui effectue une recherche qui n'est pas celle d'une lutte politique. Et donc voilà, il ne faut pas tout mélanger, il est sur une ligne plutôt centriste, mais très aujourd'hui.
Mais il était universitaire, donc on ne peut pas aussi reprocher à quelqu'un d'étudier ces sujets. Après, est-ce qu'il épouse toutes ses théories et ses convictions
à partir du moment... Il les a mises en application. Quand il a fait son livre blanc là, pour la diversité à l'opéra, on avait la contre-culture, la racialisation, on avait tout. Donc il y a une mise en application. Et si on fait le lien avec l'école, la réforme de Sciences Po, il était là, Pap Ndiaye. Donc si on veut avoir une idée de ce que potentiellement peut être dans la pratique l'école ou son école du futur alliée avec ses idées, On peut regarder ce qui s'est passé à l'Opéra, ce qui s'est passé.
Déjà, l'école du présent. Oui, 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 je sais, mais je ne comprends pas pour autant. L'école du présent, c'est déjà pas mal.
L'école du futur, c'est la réforme de Sciences Po et les livres blancs, la diversité à l'Opéra, c'est inquiétant.
Vous allez nous parler de l'école du futur ? Les titres. Oui, vous allez nous raconter ça. Les titres, c'est News Info d'abord, Jean-Louis, juste après.
Ouverture du procès de Jean-Marc Reiser. Aujourd'hui, l'homme de 62 ans est renvoyé devant les assises du Bas-Rhin pour l'assassinat de Sophie Le Tan. Cette étudiante avait disparu en septembre 2018, juste après avoir visité l'appartement de l'accusé. Jean-Marc Reiser a toujours nié toute implication dans cette disparition. Il risque la prison à perpétuité. Plusieurs associations se sont données rendez-vous hier devant la mairie de Paris, principale cible de cette manifestation, Anne Hidalgo. Les personnes rassemblées protestaient entre autres contre le plan anti-crack de la maire de Paris qui prévoit notamment l'ouverture de salles de shoot dans la capitale. Enfin au Canada, c'est une découverte à la fois extraordinaire et historique qu'a fait par hasard un chercheur d'or. Il a trouvé le corps d'un bébé mammouth, plus précisément les restes momifiés d'un bébé mammouth pratiquement complet. L'animal serait mort il y a plus de 30 000 ans.
Merci Audrey. C'est très éclectique, c'est varié, c'est formidable. C'est la promesse, merci à vous. Une dernière remarque et je vais vous faire réagir sur Papandreou. Il veut rassembler. Je me suis toujours demandé comment est-ce qu'on peut rassembler en faisant peur, en disant voilà l'épouvantail, mais je rassemble. Rassembler, c'est quelque chose de positif, c'est d'ouvert. C'est difficile de rassembler en agitant un épouvantail et en entretenant les peurs quand même.
Il a peu parlé. Il a parlé effectivement ce week-end dans un.
C'est pas faute de l'inviter.
Dans le Parisien. Il a eu certainement. Je pense que le personnage va se fabriqué en tant que ministre de l'Éducation nationale. Il n'avait pas le même profil, reconnaissez-le, lorsqu'il arrivait en France de ses séjours aux États-Unis et face à des sujets qui n'avaient pas l'envergure de ceux qu'il va devoir affronter aujourd'hui à l'Éducation nationale. Donc, moi, je dis...
Par exemple, il dit que l'un des principaux sujets dans l'éducation à l'école, c'est l'égalité des chances. Bien sûr,
oui,
enfin, il y a le niveau d'abord. Oui, mais...
C'est un vrai sujet. Il donne des chiffres en plus.
Oui,
vous avez vu.
Je trouve que c'est très symptomatique d'une certaine vision. C'est vrai ce qu'il dit. Mais
l'égalité des chances, c'est tout de même quelque chose d'important.
Oui, mais d'abord le niveau, l'excellence, l'exigence, la sélection.
Dans notre situation actuelle, l'éducation nationale crée des personnages.
Lui, bonne et Dan pour cette
l'égalité des chances en fonction des compétences et des capacités.
Bien entendu, il faut le voir. Mais je veux dire, il y a des inégalités extraordinaires.
On ne le nie pas, Jean-Louis, mais c'est pas. Est-ce que c'est la priorité là dans l'éducation nationale?
Ça en fait partie. Lorsque vous voyez les personnages qui sortent des grandes écoles par rapport à ce qui sort aujourd'hui d'un profil classique.
Mais on ne s'inquiète pas quand on met ses enfants à l'école alsacienne, tout va bien.
Non. Bon, oui, mais c'est facile de dire ça.
Mais c'est sûr que ces enfants, quand ils passeront le concours, il n'y aura aucun problème. Vous avez raison, on va le voir à l'épreuve des faits et des actes. Jugeons aussi sur son action.
En ce qui concerne ses enfants et sa famille, je veux dire, c'est un débat qui...
Avouons que pour le ministre de l'Éducation, on peut s'interroger, on scolarise les enfants. On a souvent posé la question.
Oui, on les protège.
On les protège.
Mais je pense que commencer par l'égalité des sens, c'est prendre à rebours la thématique. On ne peut pas arriver à la fin, constater une inégalité, ne pas s'interroger sur ses racines, ses causes racines, et ensuite mettre en place des mesures complètement arbitraires et artificielles pour essayer d'y répondre. C'est exactement ce qui a été fait à l'Opéra de Paris. Aujourd'hui, c'est ça la proposition politique de Papandreou, effectivement, ça va être compliqué, et je vous prédis qu'il sera en échec.
Vous entendez? C'est la cloche. Fin des cours. C'est terminé. Fin de l'école.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.